Alors regardez, c'est marqué dans le Ramban, Nachmanide, Rosh Hashanah ou Yom Adin Berachamim. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement Berachamim dans la miséricorde. Ve Yom Akipurim est le jour de Kippour. C'est Yom Arachamim Bedin. C'est le jour de la miséricorde dans le jugement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le jugement dans la miséricorde et la miséricorde dans le jugement. Nous, on comprend que le jour de Rosh Hashanah, comme on a essayé d'expliquer et de le comprendre ensemble, c'est un jour où tout est déterminé, où on rencontre Akadosh Baruch Hu, on se présente devant lui, et ce jour-là, c'est le Yom Adin. C'est vrai, c'est le jour du jugement. Mais ce jugement, il se fait berachamim, il se fait avec miséricorde, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il nous donne du crédit, il nous donne du temps, il nous donne l'année pour essayer de construire ce qu'on est censé être. Yom Kippour, c'est rachamim bedin. Ça veut dire quoi? C'est un jour qui est fait pour le pardon. Il faut arriver à comprendre une chose pareille. D'accord? Un roi, il vient, il pose un règlement. Il donne ses lois. Et normalement, il prévoit des punitions. C'est tout. D'accord? Mais on n'a jamais vu un roi qui donne un règlement, qui donne des punitions et qui donne le pardon organisé. Vous comprenez ou non? Par exemple, un copain, vous faites un truc avec lui. Alors, bon, je te prête 1000 francs. Il vous dit pas, bon, si tu me rends pas les 1000 francs, eh ben, sache que le mardi, c'est un bon jour pour te faire pardonner. Il te prévient pas, au cas où tu fais une bêtise. Vous avez compris ou non? La Torah, elle dit, attention, il faut faire comme ça. La Torah, elle dit, fais Shabbat. D'accord? Après, elle dit, si tu fais pas Shabbat, tu dois mourir. Et elle dit, mais si tu fais Teshuvah, viens à Kippour, on s'arrange. Je comprends pas, moi. Faut pas dire ça, chut, tais-toi. Vous avez compris ou non? Ne dis rien. Tu dis, voilà ce que la Torah demande. Voilà ce qui se passe quand on fait pas ce que la Torah demande. Et c'est tout. Et puis l'homme, il va réfléchir, il va dire, il va dire à Hachem, je t'en prie, pardonne-moi. Hachem, il dit, je vais réfléchir à ton cas. Non. Hachem, il met le pardon, c'est-à-dire la miséricorde, bedin. Il le met en tant que loi. C'est ce qui est marqué, rachamim bedin. C'est-à-dire que Jboukhou, il a instauré la miséricorde. En tant que loi. Il y a une loi qui s'appelle Kippour. C'est quoi Kippour? C'est le jour du pardon. C'est quoi le pardon? C'est qu'on va pour réparer ce qui s'est passé. Mais c'est extraordinaire. On n'a jamais vu un roi qui te donne une journée pour réparer les bêtises que tu as fait envers lui. Débrouille-toi, c'est ton problème. Moi, je t'ai dit, ne le fais pas. Je t'ai prévenu, si tu le fais, c'est dangereux. Et toi, tu le fais? Et maintenant, tu viens chez moi? Hachem, il dit, moi, j'anticipe et je te donne la possibilité de faire, d'expier la bêtise que tu as fait, de te faire pardonner. Il faudra comprendre ça. Deuxièmement, c'est marqué dans le Rambam, dans la Halakhot Tshuva, au Perek Aleph. Itsumo shel Yom Kippour michaper ima Tshuva. L'essence même du jour de Kippour pardonne, expie, avec la Teshuva. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans les commentaires pour comprendre ce que ça veut dire Itsumo shel Yom. Ça veut dire l'essence du jour lui-même. Parce que nous, tout ce qu'on a travaillé pour essayer de se comprendre qu'est-ce que c'est la faute, qu'est-ce que c'est la Teshuva, qu'est-ce que c'est le Yetzerara, tout ce qu'on s'est cassé la tête, c'est pour comprendre qu'il y a un travail personnel de l'homme, qu'il y a une remise en cause profonde. La teshuva, ça te concerne à toi. Voilà qu'on vient, on te dit, tu sais, il y a une douche qui s'appelle Kippour, et quand on passe en dessous, ça enlève les fautes. Itsumo shel yom, ça veut dire l'essence même du jour, le jour lui-même. Le jour lui-même, il contient le pardon. C'est-à-dire que quand tu passes sous la douche, ça lave. Et ben quand tu passes Kippour, ça lave. Tu dis, mais alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Bah, toi, tu passes. Ah, non, vous allez me dire, mais c'est marqué ima tshuva. C'est marqué l'essence du jour expie avec la tshuva. C'est vrai, vous avez raison. Ah, mais attention, la Gemara dans Yom Adaf Pe et Amud Bet. Rabbi Omer, chez Alkol Avarot Sheba Torah, Rabbi dit, sur toutes les fautes de la Torah, ben asa tshuva, ben lo asa tshuva, qu'il ait fait tshuva ou qu'il n'a pas fait tshuva, Yom Kippour mechaper. Yom Kippour expie, pardonne. Chutzmi porek ol, sauf celui qui rejette le joug divin. D'accord? Il rejette le joug, il rejette le système. C'est-à-dire que le système ne s'adresse qu'à quelqu'un qui accepte le système. Mais quelqu'un qui rejette le système, ça marche pas. Comme un docteur, tu vas chez le docteur, il dit non, je ne crois pas dans la médecine. Le docteur, il dit je peux rien faire pour vous. Tu veux le masser, il dit je ne crois pas à la kinésithérapie. Ben, ça marchera pas. D'accord? Donc, en excluant la personne qui rejette complètement, tous les autres, il dit Rabbi, vont être pardonnés par Yom Kippour, même s'ils font pas teshuva. Tu dis, mais alors? C'est facile. Oui, tu fais ce que tu veux, 365 jours, t'attends la date. Tu dis, enfant, savonnez-vous, il y a la douche qui arrive là. Alors tu dis, au moins savonnez-vous. Il dit, même pas. La teshuva, c'est, tu frottes pour enlever les taches. C'est même pas la peine. Tu vas à Kippour, la douche, elle contient le savon. C'est de la folie. Ça aussi, il faudra comprendre. Bien que l'alakha n'est pas comme ça, je vous rassure tout de suite, l'alakha, c'est qu'il faut faire teshuva, d'accord? Mais quand même, le fait que ça soit écrit dans la Gemara, ça veut dire quelque chose. Alors nous, on avait expliqué que le fait que Rosh Hashanah soit placé avant Kippour, c'est parce que moi, j'ai reconnu Akadosh Baruch Hu comme roi, que je lui donne par là le pouvoir de me pardonner. C'est-à-dire la capacité pour Hachem d'intervenir dans ma vie, elle vient du fait que moi, je lui ouvre les portes. Ça fait partie du libre-arbitre. Maintenant, si moi, je ferme les portes, Akadosh Baruch Hu ne rentre pas dans ma vie. On l'avait expliqué, il y a une catégorie de gens vivants, des catégories de gens morts. Les gens morts, c'est les gens dont on prend la vie en main. Il y a les gens vivants, c'est les gens qui prennent leur vie en main. Maintenant, un homme, il choisit. Ou il fait partie d'un groupe, d'une masse, d'une population, d'une particule. Ouais, et à ce moment-là, on s'occupe de lui. Soit lui, il est décisionnaire de sa vie, et Ajourou lui demande qu'est-ce que tu veux. D'accord? Pour rappeler de ça. Mais ça vient du fait que moi, j'ai rendu Hachem roi. Parce que quand je dis qu'il est roi, donc moi, je dis que je suis serviteur. Et si moi, je suis serviteur, attention, lui, il est roi. Vous rappelez de ça. Or, le pouvoir du pardon, c'est le pouvoir du roi, qui n'existe que pour le serviteur. Mais si quelqu'un ne se considère pas comme serviteur, il n'a pas droit. Vous comprenez ou non? C'est comme si quelqu'un il va voir un docteur, il lui dit, vous êtes un nul. Comment vous, le plus grand chirurgien du monde, vous n'avez pas été capable de sauver ma fille, elle est morte. Alors le médecin, il dit, mais il fallait me l'amener. Et je l'aurais sauvée. Vous ne faites pas partie de mes clients. Hachem, il dit, moi, mes clients, je les sauve. L'autre, il dit, alors Hachem, il demande, est-ce que tu fais partie des clients? Alors toi, tu dis, ça dépend. Alors tu lui dis, Hachem, tu vas me pardonner? Alors Hachem, il dit, ça dépend. Eh ben oui. Hein. Alors les gens disaient, c'est donnant. C'est pas donnant, c'est jusqu'à combien on peut se moquer de quelqu'un. Combien on peut se moquer? Alors selon ce que t'évalues toi, combien on peut se moquer de toi? Alors tu t'imagines combien on va se moquer de toi aussi? Alors pour comprendre ça, pour comprendre comment est-ce que marche le pardon, il faut d'abord comprendre comment marche la faute. Vous savez, malheureusement, souvent, on a une idée un petit peu générale, d'accord? On se dit, bon, le grand pardon, d'accord? Il y en a qui n'en ont qu'une idée cinématographique. Ce qui n'est pas vraiment une référence, je vous dis franchement. Pour les goïms, c'est bon, mais pour nous, c'est léger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la faute, on ne peut comprendre le pardon que si on comprend la faute. C'est comme si quelqu'un il me dit, mais qu'est-ce qu'il faut comme détachant pour tel type de tâche? Je dis, parle-moi de la tâche, je vais te parler du détachant. Alors venez, on va essayer de comprendre où est la tâche. Alors c'est marqué, achet, metamtem et alev. La faute, metamtem et alev, ça veut dire elle bouche le cœur. C'est marqué aussi, achet, mevit ou mal et adam. La faute, elle amène de l'impureté à l'homme. C'est aussi marqué, en adam met elaimken choté. Un homme ne meurt que s'il a fauté. C'est marqué aussi, rechaim nikraim metim. Les rechaim sont appelés morts. Alors venez, on va essayer de comprendre ces différentes phrases des sages pour comprendre comment fonctionne une faute. Les gens croient que les fautes, c'est des actes. T'as fait un truc, d'accord? Mais même dans la vie, ça n'existe pas un acte qui est séparé du reste des cycles des actes. Ça veut dire, quand tu arrives quelque part, quand tu fais quelque chose, ça vient toujours de quelque part et ça va toujours quelque part. On peut pas regarder un acte ponctuel en le sortant de son contexte, il vient toujours, il y a un état d'esprit, il y a une opinion, il y a une ambiance qui accompagne l'acte, il y a une conscience au moment de l'acte, et puis après, il y a toute la chaîne des conséquences. Alors pour ça que quand on parle de la teshuva, on parlait du passé, on parlait du présent, et on parlait du futur. Alors c'est pareil maintenant. Quand moi j'envisage une faute, je dois regarder la faute, non pas comme un acte ponctuel, comme nous on regarde la faute, d'accord? Mais comment on doit regarder comment la faute elle-même elle existe? C'est pareil. Par exemple, quand on fait du mal à quelqu'un, D'accord? On comprend pas pourquoi il a de la peine. Parce qu'on dit, mais bon, ça va, je t'ai fait ça et je te demande pardon. L'autre, il dit, mais attends, mais toi, tu regardes le petit mot que tu m'as dit, mais ce mot-là, il accompagne un état d'esprit, il accompagne que tu me juges d'une certaine manière, il accompagne que tu avais un truc dans la tête quand tu l'as fait. C'est très, très profond, c'est très pourri comme situation. Vous comprenez? L'autre, il comprend pas, il dit, mais ça va, bon, mais ça va. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça va, je m'excuse. Comment tu m'excuses? Mais le truc, tu me l'as fait il y a 3 mois. Ça fait 3 mois que je m'angoisse. Maintenant, quand j'y pense, je me dis, mais pour être capable de faire ça, ça veut dire que t'as la haine contre moi, mais moi, je croyais que tu m'aimais. Donc, ça veut dire que ça fait 4 ans que tu m'aimes pas. C'est compris? Ça se calcule. En plus, moi, je croyais que t'étais un type équilibré. Mais il faut être profondément débile pour faire du mal à quelqu'un en toute conscience. Donc, en plus, t'es débile. Donc, ça fait masse. Alors que l'autre, il dit, oh, ça va, je t'ai fait un croche-patte. Mais tu m'as fait un croche-patte à 1 mètre d'un ravin de 11 000 mètres de profondeur. Alors tu dis, oh, pourquoi t'extrapoles? Comment j'extrapole? Mais j'ai été au fond du ravin, moi. J'ai plongé. Oh, mais c'était une blague. Faut pas le prendre mal. Ou alors tu dis mieux. Et tu dis, j'avais pas l'intention. Ça, c'est extraordinaire, ça. Mais c'est extraordinaire. Mais bien sûr. Mais moi aussi, quand je te pince, j'ai pas mal. Donc j'ai du mal à ressentir ta douleur. C'est pas que je sois insensible, mais je comprends pas pourquoi t'as mal. Pourquoi tu pleures? Tu dis, mais c'est normal, c'est moi qui souffre. Ah! Il douche. Ben oui, mais t'as découvert que l'autre c'était quelqu'un d'autre. Donc, quand tu lui fais quelque chose, au lieu de t'intéresser au regard que toi tu as de ce que tu fais, il faut que tu t'habitues à avoir le regard de l'autre. C'est pas vrai. C'est une habitude à prendre. C'est une habitude. Tu fous une baffe, réfléchis. C'est la joue de l'autre. D'accord? Tu empruntes l'argent, rappelle-toi, c'est l'argent de l'autre. Tu voles, rappelle-toi, c'est le bien de l'autre. D'accord? Tu dragues, attention, c'est la femme de l'autre. Enfin, attention! Attention! Les gens, ils oublient! Ils disent, oh! Oh! C'est pas vrai! Ah, vous êtes mariés? Mais oui, ce sont bien mes 5 enfants, oui. Vous savez, des fois, on a la tête ailleurs, oui. Il faudrait même la couper, d'ailleurs, une fois pour toutes. La tête. Non. Ici, c'est marqué, quelqu'un, il comprend. Que quand on parle de timtou malev, c'est-à-dire que si la Torah, elle dit que la faute, elle met l'impureté dans le cœur, alors le problème, il faut comprendre ce que ça veut dire l'impureté. Alors les gens, ils croient à l'impureté, vous avez l'impureté, l'impureté des morts, l'esprit. Non. Je vais t'expliquer. L'impureté, elle est formulée dans la Torah sous le thème de Touma, sous le terme de... Il y a des places, asseyez-vous. Venez ici. Oui, mais si on regarde la nature même de l'impureté, ça n'a rien à voir. C'est quoi, par exemple? L'impureté, c'est la perte des repères. L'impureté, c'est le fait que la personne, elle perde sa candeur. Elle perd sa finesse. C'est marqué dans la Gemara. Que celui qui fait une fois, deux fois, une faute, alors la troisième fois, n'a séloqué éther. L'agma, elle dit, n'a c'est l'autre qui éter, ça veut dire, si on traduit littéralement, ça veut dire, c'est devenu pour lui une permission. Alors l'agma, elle dit, comment? C'est-à-dire, quelqu'un qui fait 2 fois une faute, alors maintenant, c'est permis pour lui? Elle dit, non, pour lui, c'est comme une permission. La première fois que tu fais quelque chose de mal, tu as du mal. La deuxième fois, tu as moins de mal. La troisième fois, c'est beaucoup plus facile. Il y a un apprentissage dans l'erreur, comme il y a un apprentissage dans le bien. Donc maintenant, il faut savoir qu'à chaque fois que tu t'engages dans un processus dans la vie, ce processus, que tu le veuilles ou non, il te définit. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui vole. Eh ben, plus il est malhonnête, moins il est honnête. D'accord? Les gens disent, mais c'est évident. Non, pas du tout. Parce que celui qui vole, lui, il croit qu'il reste honnête malgré qu'il vole. Et si vous allez me dire, pas du tout, il sait très bien qu'il est malhonnête. Alors pourquoi il a honte quand les gens savent qu'il a volé? Parce que lui, il croit qu'il est resté honnête. Donc quand les gens savent qui il est vraiment, il a l'archouma. Pourquoi? Mais c'est toi, mon frère. Un garçon, il sait qu'il est garçon, il n'a pas honte. Un riche, il sait qu'il est riche, il n'a pas honte. Un pauvre, il sait qu'il est pauvre, il n'a pas honte. De quoi t'as honte? T'as honte que l'autre, il sache ce que tu es vraiment. Donc tu t'acceptes pas. Dis, sache une chose. Quand tu t'engages dans un domaine, ce domaine-là, il t'imprègne. Ce domaine-là, il te fait changer. Ce domaine-là, il te conditionne. Donc quand un homme choisit la faute, elle fait partie d'un conditionnement. Comme la mitzvah, c'est un conditionnement, comme la avéra, c'est un conditionnement. Mais quelqu'un ne doit pas croire que malgré qu'il est dans la faute, il reste le même, c'est impossible. Comme un enfant, il a le trac. Il a 12 ans, il a moins le trac. Il a 14 ans, il a moins le trac. Il a 17 ans, il a plus le trac. C'est normal, il évolue. Comment il a fait? Mais il a essayé, comme la piscine, tu rentres. Oh, elle est froide. La deuxième fois, elle est plus moins froide. La troisième fois, elle est pas froide. Et si tu frimes, alors là, elle est carrément chaude. C'est normal. Donc tu vois bien qu'il y a une loi d'accoutumance. Comment elle s'appelle cette loi d'accoutumance? Elle dit, la Gemara s'appelle Timtum Alev. Ça veut dire que ça bouche le cœur. La faute, au fur et à mesure que tu l'as fait, elle te bouche le cœur. Où c'est marqué ça? C'est marqué dans la Gemara, dans le Shabbat, figurez-vous. La Gemara, elle dit que Rechaim, Afil ou Alpitrochel Geinam, Enam Chosrim. Les fauteurs, même à la porte de l'enfer, ils font pas de tchouva. Normalement, les gens qui font des avérotes, c'est des gens qui pensent que Dieu n'existe pas, que la Torah, elle était écrite par Moshe Rabbeinu, ou par une bande de copains, ou qu'il n'y a pas de punition, ou que tout ça, c'est des bêtises. Mais quand ils, ça, ils peuvent se baratiner à peu près pendant 120 ans. Mais quand ils arrivent là-haut, il y a les anges, ils sont là. D'accord? Il y a Hachem, il est là. Il y a tous les tzadikim, ils sont là. Il y a son père, sa mère, qui sont tous morts. Ils sont là, ils le regardent. Alors? D'accord? Il y a l'ange de la mort qui a un samouraï, comme ça. Et il y a la porte de l'enfer. Il voit la porte de l'enfer, elle dit la Gemara. À Philo, à Pitrochet Guinam, même à la porte de l'enfer, Enam Chosrim, ils font pas tchouva. Dis-moi, combien il faut être bouché pour qu'un type devant l'enfer, il nie encore. Il dit non. J'y crois pas. On peut te prouver, si tu veux. T'as compris ou non? Comment j'ai dit à des gens? Des gens, ils me disent, est-ce que ça existe? J'ai dit, mettez la tête dans le micro-ondes pendant un quart d'heure, vous aurez une petite idée. À quoi ça peut ressembler? J'ai dit, à quoi ça peut ressembler? Ah ben, essaye d'imaginer. D'accord? Alors, comment ils font pas de tchouva? La Gemara, elle dit, pourquoi ils font pas de tchouva? Chez Chélev Al-Kessila, parce qu'ils ont une graisse sur le cœur. Ah, Bota, il faut vous mettre une fois dans la tête, une fois pour toutes, que quand on s'engage dans un chemin, ce chemin-là, il t'engage. C'est-à-dire que quand toi, tu marches dans la boue, eh ben, t'es boueux. Tu dis, ah bon? Eh ben oui. Comprenez? T'as un rendez-vous d'affaires. T'as une panne de voiture. Tu mets pas tes mains dans le moteur. T'appelles SOS. Parce que tu dis, si je mets les mains dans le moteur, je peux réparer la voiture, mais je peux plus aller au rendez-vous. Bonjour? Pied noir? Non, main noire. C'est pas possible. Tu peux plus. C'est pareil. Alors nous, on vient avec un costard blanc à la naissance. On arrive à la naissance avec un costard blanc. Bon, on arrive à Kippour, il y a quelques taches. Mais c'est des taches. J'ai dit, mais non, c'est un style. C'est nouveau, c'est comme ça. Ouais, j'ai une ici, là. C'est pas possible, il y a des taches, il faut enlever les taches. Il dit, la faute, elle crée une tache. Elle crée un conditionnement. Quel conditionnement elle crée? Relève al-Kessilam, elle dit la Gemara, il y a une graisse sur le cœur. C'est cette graisse-là qui empêche la sensibilité. Ça veut dire qu'en vérité, un homme, plus il faute, plus il devient insensible. Lui, il croit que parce qu'il faute, maintenant il s'est libéré. Comprenez ou non? En vérité, c'est parce qu'il est insensible. C'est comme si un type, tu lui dis, dis-moi, toi, t'es capable de prendre une mouche et de l'écraser comme ça entre tes doigts? Il dit, non, c'est pas possible. Là, tu dis, bah, je sais rien. L'autre, il dit, bon, est-ce que tu peux prendre une souris et l'écraser entre tes doigts? On va dire, ah, c'est écœurant. Mais est-ce que tu peux mettre le doigt dans l'œil d'un chien? C'est écœurant. Dis-moi, il y a des gens qui mettent le doigt dans l'œil de l'autre, hein. C'est leur métier, ils sont payés. Ça s'appelle KGB, c'est une... Ouais. Et ça dérange pas. Mais comment on a pu faire ça? Toi, ça dérange d'écraser un moustique. Lui, ça le dérange pas de mettre le doigt dans l'œil? Comment il fait? C'est comment il fait? Il s'habitue, mon frère. Alors tu dis, mais si on peut s'habituer à ça, on peut s'habituer à tout. Hazak! Comment s'appelle l'habitude? S'appelle Chelev al-Kessilam, s'appelle une graisse sur le cœur. Au fur et à mesure que tu fautes, tu développes une graisse qui empêche la sensibilité. C'est comme si quelqu'un il avance dans la montagne. Il passe un premier ravin, il passe un deuxième ravin, il passe un troisième ravin. Mais sur chaque ravin, il y avait un pont. Vous savez les ponts là, dans l'Himalaya, les ponts en ficelle avec des petites barrettes là de bois là. Et à chaque fois qu'il passe un pont, il coupe derrière lui. Et il avance, et il coupe derrière lui. Et il avance. Quand il en est au 9e pont, il peut se dire, ouais, j'ai eu l'Himalaya. Après, tu dis, mais comment tu vas faire pour revenir? Sur le moment, tu te poses pas la question. Mais comment tu vas faire pour revenir, mon frère, t'as coupé les ponts? Et ça, regardez bien, C'est le double problème. Parce que d'un côté, pour avancer dans la vie, bah, faut se lancer, faut se mouiller, on dit en français. D'accord? Et ben, bah, pour reculer aussi, faut se mouiller. Tu vas pleurer, hein. Ça t'a coûté quand même pour faire une belle Avera, c'est dur. D'accord? Tu dis, si ma mère, elle était au courant, elle est pas là. Tu sors de la boîte, elle est là. Maman! Maman! Faut que je t'explique, c'est un, enfin, je suis en stage. T'es en stage? T'es en stage, ma fille, samedi soir, 4h du matin. T'es en stage de quoi? Tu m'as dit que tu révisais les maths. Ben oui, ben tu comprends, eux, ils matent, moi je révise, enfin. D'accord. C'est pas possible. La faute, elle coupe les ponts. La faute, elle empêche la personne de revenir. Ça, c'est tout malève. C'est rien, l'homme, il croit qu'il est libéré. J'adore ce mot. Vous savez, les gens disent, ouais, vous êtes frustrés, nous on est libérés. Je dis, moi, je comprends pas. Être libéré, c'est pas un signe de valeur humaine, c'est pas un signe de qualité. Au contraire, c'est un signe de petitesse. Vous voulez la preuve? Vous voulez une preuve que être libéré, c'est un signe de petitesse? Vous voulez une preuve extraordinaire? Il n'existe pas de chien coincé. Un chien est libéré naturellement. Vous comprenez ou non? Un chien, il est libéré. Vous n'avez pas vu un chien qui a des complexes ou un chien qui est mal à l'aise? Un chien, il est libéré. Ils sont très libérés, les chiens. Demandez les mœurs chez les chiens, ça va très loin. Hein. Donc si, toi tu dis que c'est quelque chose d'extraordinaire d'arriver à se libérer, alors ça veut dire que quand toi tu fais des efforts de folie grâce à ton psychiatre qui t'a expliqué comment te libérer et tout ça, il y a des rues spécialement pour se libérer, d'accord? Donc maintenant que tu t'es libéré, eh ben t'es arrivé au niveau du chien. Naturellement. Qui lui est libre naturellement, le chien est libre naturellement. Regarde le chien comment il est libre. Il est libre, il fait ce qu'il veut, avec qui, quand il veut, où il veut. Sa mère, sa sœur, il n'y a pas de problème. C'est un chien libre. Et toi tu me dis que grâce au fait que tu te coinces pas avec des angoisses et des frustrations et de la morale et tout, maintenant t'es un homme libre. Donc la société, elle, rabotaille, c'est un chenil. Mais c'est un chenil. Libérez-vous! Débarrassez-vous de vos complexes! Cassez les limites de la morale! Rejetez les frustrations que vous contenez! Ça veut dire soyez des chiens! Mais tu dis, mais je ne veux pas être un chien, je voudrais être un homme. Eh ben, je vais vous dire une chose idiote. Même de devenir un chien, ça coûte. Ben oui, parce que t'as élevé des enfants normalement. Donc la première fois, c'est dur d'être un peu chien. La deuxième fois, c'est un peu moins dur d'être un peu chien. La troisième fois, t'es un bon chien. Quand tu rends pas l'argent, la première fois tu rends pas 100 balles, ça te fait du mal, tu dis bon excuse-moi. La deuxième fois, tu dis bon écoute je les ai pas. La troisième fois, tu dis mais qu'est-ce que tu veux? Qui t'a dit que tu m'as prêté de l'argent? La quatrième fois, mais comment tu peux imaginer que j'allais te le rendre un jour? Mais t'as vu ma tête? Tu dis mais comment tu peux parler comme ça? Je t'ai connu, on était ensemble, t'étais un type sérieux. Plus tu t'enfonces, plus tu t'engages. Plus tu t'engages, plus tu te définis. Ça s'appelle Timtou Malève. C'est-à-dire qu'un homme, au fur et à mesure qu'il faute, il accumule une graisse qui l'empêche de revenir. Donc plus on faute, plus c'est dur de revenir. Vous savez pourquoi? Parce que pour faire tes chouvas, il faut avoir de la honte. Mais plus t'es libéré, moins t'as de honte. Donc moins t'as de honte, plus t'as de difficulté à faire tes chouvas. Parce que comment tu vas avoir honte de ce que t'as fait, alors que pour le faire, t'as dû détruire ta honte? Vous me suivez ou non? Donc pour faire tes chevaux, il faut de la pudeur. Mais pour faire ça, tu as dû détruire ta pudeur. Donc tu as coupé les ponts. Pour faire tes chevaux, il faut de la candeur. Donc, mais pour faire ce genre de bêtises, tu as dû détruire ta candeur. Pour faire tes chevaux, il faut de la pureté. Mais pour faire ça, tu as dû détruire la pureté. Ça, c'est Timtou Malève. Vous avez compris? C'est ça, l'impureté qui bouche le cœur. Et chacun, il le sait, ça. Pourquoi? Parce que même si quelqu'un te dit, bon, je suis pas très religieux, vous savez, je suis pas très, très, D'accord, mais je veux dire, tu te rappelles avant, il y a un mot que tu n'arrives plus à prononcer maintenant, ça s'appelle l'innocence. Tu te rappelles de ce mot-là? Alors, il te dit, oui. Alors, tu dis, ouais, mais ça, c'est quand on est gamin. Il dit, je sais pas, je vais t'amener des gens, ce que toi, tu appelles des tzadikim, ils sont innocents. Alors, comment ils font? Ils font pour être vieux et innocents? Je sais pas. D'après les psychiatres, ça s'en va avec l'enfance, l'innocence. Pas du tout. Quand tu sors du procès, toi, t'es innocent, non? Comment t'as fait? Parce que t'es vieux. Alors, l'innocence, c'est une valeur qu'on te donne à la naissance. Maintenant, si tu ne la protèges pas, elle se détruit. Elle se détruit. C'est pour ça que la teshuvah, c'est un miracle. Pourquoi ? Parce que est-ce que quelqu'un il peut me dire j'ai retrouvé l'innocence de mon enfance ? Je dis c'est pas possible. Comprenez ? Quand j'étais petit, je m'émerveillais de tout, je trouvais tout extraordinaire, je croyais les gens, j'avais confiance. Mais maintenant, j'ai appris à vivre, j'ai plus confiance. La vie, elle n'a pas tenu ses promesses. Comme ça, mais Allah, ouais. Il y a des gens, non, ils ont 60 ans, ils ont 80 ans. Il te dit, bah écoute, laisse-lui sa chance. Et puis la vie, elle nous, le soleil se lèvera demain. Et puis pourquoi ça s'arrangerait pas? Ils ont gardé l'innocence. Parce que les gens, ils n'ont pas compris. L'innocence, c'est une valeur qu'il faut préserver. Si tu la préserves pas, tu la détruis. Maintenant, si tu la détruis, le miracle de reconstruire son innocence s'appelle la teshuvah. Parce que sinon, c'est impossible. Toi-même, tu reconnais qu'on ne peut pas retrouver certaines choses. Et dit la teshuvah, elle permet de retrouver. Ça veut dire qu'il y a une récupération. Ah, et si quelqu'un il va dire, non mais moi j'ai pas perdu grand chose, vous savez, j'ai pas perdu grand chose. Mais par exemple, un homme il est agressé par les mauvaises pensées. C'est une agression, d'accord? Il y en a qui vont dire, moi ça me dérange pas, au contraire ça m'entretient, au lieu de m'ennuyer, moi j'ai plein d'images qui me traversent l'esprit, bon, des images assez dégoûtantes, je veux dire, je les montrerai pas à mon fils, mais personnellement ça égaye ma vie. Il dit, mais t'en as pas marre? T'as pas envie d'être tranquille, des fois? Il dit oui. Eh ben, tu vois, cette agression-là, c'est la faute qui amène ça. C'est ça, l'impureté. T'as plus de repères. Tu sais plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, c'est la faute. T'as pas le respect de toi-même. Pourquoi? Parce que tu t'es déçu toi-même. C'est la faute. Il faut me trouver des places, là. Je vais avoir des crampes. Venez, on va amener des chaises, là. Deuxièmement, ça c'est le premier élément de la faute. Deuxième élément, c'est que la faute, elle crée des habitudes. Ça veut dire quoi? Vous savez, on dit par exemple, il y a un principe dans la Torah qui est connu, c'est Avera Goret Avera. La faute entraîne la faute. C'est que les gens ils croient encore une fois qu'une faute c'est un acte ponctuel. En vérité, une faute c'est une dynamique. Mais alors quand tu rentres dans la dynamique provoque la dynamique. C'est comme quand tu es une escalade ou une spirale. Toi, tu te dis, ah, je suis pas content de ce qui se passe. Mais mon frère, tu te réveilles à peine, mais la spirale, elle est partie, elle est décollée. C'est comme tes enfants. Il faut être très vigilant avec les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Avec qui ils parlent? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que toi, le jour où tu verras, où tu te réveilles, c'est comme quand tu viens avec la tâche. Tu dis, docteur, j'ai une tâche, là. Alors, le docteur, il dit, écoutez, on va faire un scanner. Tu dis, oh, j'ai juste une petite tâche. Le médecin, il dit, oui, mais ça, c'est la face externe du problème. Mais ça remonte plus haut, là. Faut voir la face interne. Alors, la Torah, elle te dit, fais attention aux détails, parce que les détails, ils signifient des conséquences. C'est pareil. Il dit, un homme, il doit comprendre qu'un acte, c'est pas un acte qui est ponctuel. C'est un acte qui fait partie d'une dynamique. D'accord? Et si quelqu'un va me dire, c'est pas évident, moi, je te dis, c'est faux, parce que regarde toi-même. Quand quelqu'un te fait un problème, toi, tu remontes plus haut. Tu dis, ouais, mais ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Des fois, au contraire, tu anticipes dans l'avenir. Tu dis, ah, mais si c'est comme ça, ça va être pire, ça va être pire, ça va être pire. Donc, tu vois bien que toi-même, les actes, tu les considères pas comme des actes ponctuels chez les autres. Alors, pourquoi chez toi, tu les crois ponctuels? Pourquoi chez toi, tu dis, bon, écoutez, c'est un accident, mais il n'y a rien de grave, faut pas en faire... Personne te juge, personne te juge, personne te regarde. Toi et toi-même, tu te photographies en train de faire une bêtise. Toi-même, tu dois dire, mais comment j'en suis arrivé là? Je suis dans une dynamique. D'accord? Mais si de là où j'étais, je suis arrivé là, oui? Pourquoi demain, de là où je suis, j'irai pas ailleurs? C'est une dynamique. Vous comprenez ça ou non? Quand quelqu'un s'assoit, imaginez, il s'assoit, d'accord? Il s'assoit. On lui dit, asseyez-vous. Vous êtes à l'aise? Oui, tu es à l'aise, oui. Bon, je mets la ceinture. Non, c'est pas la peine de mettre. C'est un fauteuil. Vous êtes très bien assis. Vous êtes bien là. Vous êtes bien. Vous êtes vraiment bien. Vous vous sentez bien. Comment vous voyez l'histoire? Ben, je sais pas. Écoutez, là, décrivez la scène. Écoutez, je suis à Étretat. Je suis au bord des falaises d'Étretat, je suis assis sur un siège. Il y a deux immenses courroies qui partent, une de ma droite, une de ma gauche. Je ne vois pas le bout, elles s'en vont comme ça dans l'espace, je ne sais pas où elles vont. Et je suis assis sur une chaise. Alors, ça vous fait penser à quoi? Alors, tu dis, écoutez, vraiment, je vois pas, c'est surréaliste. Mais plus proche de la réalité, il dit, je dirais un lance-pierre. Vous êtes sur un lance-pierre avec deux élastiques qui partent à droite et à gauche à Etretat. Qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Les États-Unis. Vous n'avez pas peur? Moi, je sais pas. C'est... Est-ce que ça peut vous mener quelque part, tout ça? Tu sais d'où tu pars, tu sais pas où tu arrives. C'est avera, goret, avera. La faute entraîne la faute. Donc toi, tu dois regarder la faute non pas comme un acte ponctuel, mais comme une dynamique qui t'entraîne. Et celui qui est assis sur un lance-pierre comme ça, croyez-moi que quand il a fini de se poser la question « Est-ce que ça vaut le coup de rester assis ?», il est déjà parti. Parce que quand il se réveille, il est déjà loin, il est loin. Il dit « Mais je crois que j'aurais pas dû. » Mais il est marié, le mec. Et il pense qu'il aurait pas dû sortir avec elle. Mais il est marié. Vous comprenez l'histoire, non? Il est devant le juge, il dit « Je fais acte de repentance. » Le juge, il a dit « Vous avez 10 ans pour regretter. » Mais c'est trop tard. T'étais devant la caisse. Enlève tes mains. Tu dis, magnétisme. Enlève tes mains. Mets-les dans le dos. Accroche-les. Fais des nœuds. Je sais pas. Fais quelque chose. Je sais pas plus. Avera, correct, avera, mon frère. Une faute entraîne une faute. Ça veut dire quoi? C'est une dynamique. Troisièmement, on voit que plus on faute, plus on a du mal à faire le bien. Vous savez, les gens, ils se demandent toujours. Oh, mais ça veut, les mitzvot, c'est pas évident, la synagogue, la prière, les téphilines, bon, ça va un temps, ça porte bonheur, mais c'est difficile. Alors moi, je te pose une question idiote. Je te dis, dis-moi, la Torah, elle a été donnée depuis 3500 ans. Ça veut dire qu'il y a 3500 ans que des bénis Israël font les mitzvot, d'accord? Ils les font avec le cœur, ils les font avec amour. Bon, il y a beaucoup de niveaux, hein, c'est sûr. Hein. Ça va de Bar Ilan jusqu'à Mea Shearim, il y a deux. Ouais. Mais ces gens-là qui les font tous les jours avec le cœur, comment ils font pour continuer à les faire? Tu dis, bah, je sais pas, ils les font par habitude. Non, tu vois, ils mettent du cœur. Ouais, c'est vrai. Alors, ils les font, bah, ils les font parce qu'ils ont peur. Non, on parle avec eux, ils ont pas peur. Ils les font par amour. Ah oui, t'as raison, ils les font par amour, ouais. Comment on fait les choses par amour? Eh ben parce que on développe sa motivation et puis on lutte contre la démotivation. Ah, ça c'est malin ce que t'as dit, haha. D'accord. Dis-moi, comment on fait des avérotes? Tu sais comment on fait des avérotes? On fait pile l'inverse. On développe la démotivation et on lutte contre la motivation. Comme ça on fait des avérotes. C'est comme ça qu'on fait des fautes. Comment tu fais une faute? Tu dis... Oh, ça va, c'est pas grave. Puis en plus, j'ai pas envie de me prendre la tête, c'est permis, c'est pas permis. Puis c'est bien, c'est facile, c'est du plaisir facile, c'est bien. Pourquoi on veut se refuser des choses? Dis-moi, t'es en train de motiver ou en train de démotiver, là? T'es en train de démotiver. Tu cultives la démotivation. Et la motivation? Je sais pas. Bataille. Quand tu roules, tu enlèves le frein et tu accélères. Si tu n'accélères pas, dommage de mettre le frein, de toute façon tu es à l'arrêt. Si tu mets le frein, tu n'accélères pas, tu n'avanceras jamais. Tu peux en rêver, tu peux y croire. C'est toute la vie, c'est comme ça. Donc desserre le frein et accélère. Maintenant, tu n'accélères pas. C'est sûr qu'au bout d'un moment, le paysage il va devenir monotone, vu que tu es à l'arrêt. Alors tu t'ennuies, donc tu fais des bêtises, parce que tu t'ennuies. Tu n'as pas remarqué que les gens qui s'ennuient font des bêtises. Mais comment t'as trouvé le temps de faire une bêtise? Parce que t'as rien dans la tête. Vous pouvez toujours calculer la gravité d'une bêtise selon le manque de but de la personne. Un type qui n'a pas de but, il est très dangereux, parce qu'il n'y a pas de but. Un type qui a un but, ou il est bon ou il est mauvais. S'il est bon, bah, il est sauvé par son but. S'il est mauvais, il est entraîné par son but. Mais il a un but, il a une dynamique. Alors il peut réorienter une dynamique. Mais quelqu'un qui n'a pas de dynamique, n'importe quoi qui lui passe par la tête. Comme ça. Tu lui dis, mais pourquoi t'as fait ça? Je sais pas. Mais pourquoi tu l'as fait? Je sais pas, c'est venu là comme ça. Ça. Puis je l'ai fait. La faute, elle te rend immature. Pourquoi? Parce que la faute, c'est la culture du laisser-aller. Et c'est facile, c'est bien. Regarde, tu es dans le berceau de ta mère. Il fait chaud, on te met la couverture, on te donne à manger. C'est bien, c'est facile. D'accord? T'es un adulte, il faut que tu trouves une couverture, tu te construises un berceau, et que tu te trouves à manger. T'as pas envie de te laisser aller? T'as envie? Si tu te laisses aller, t'es bien. Maintenant, Hachem, il te dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux la satisfaction de l'effort? Oui? Ou tu veux le plaisir du laisser aller? Alors moi, je vais vous dire un grand chidouche. Les gens croient qu'ils font des averot parce que la avera leur apporte quelque chose. Mais c'est faux, puisqu'après qu'ils l'ont fait, ils regrettent. Alors, où il est le kiff de la avera? C'est où il est le kiff? Le laisser aller. T'éteins la conscience. T'éteins la maîtrise. T'éteins le respect de soi. Tu te laisses aller. Tu dis, ça y est, ça suffit, oh là là. Vous pouvez pas imaginer le kiff du laisser aller. C'est le kiff du bébé. Vous avez vu un bébé, comment il est? Vous lui donnez un biberon. D'accord? Faites l'expérience un jour. Vous prenez un gros bébé, hein. Un tabose. Vous lui donnez un bon biberon. Un 160, 180, comme ça. Il vous fait un beau rot. Et après, vous le regardez. Regardez comment il fait. Il fait comme ça, il fait. D'accord? Ben c'est pareil. Vous prenez un type de 35 ans. Il veut quelque chose. Vous lui donnez. Il fait un beau rot. Et vous le regardez. Et comme ça. Mais t'es pas bien? Il est content. Il se laisse aller. Rabotin, il le kiffe du laisser aller. C'est bon. Et c'est normal. C'est le syndrome de l'enfance. Tout le monde rêve d'être un gros bébé. Tranquille. Oh là là. C'est permis, c'est interdit, c'est bien, c'est pas bien. On me regarde pas. Dieu existe, la punition, les responsabilités. T'es un homme, t'es mature, t'assumes. Oh là 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 là. Laisse-moi tranquille. Oh là là. Le kiff du laisser aller. Qui c'est qui n'a pas fait ce rêve? Vous avez une pente. Vous êtes en bicyclette. Et il y a une pente qui dure des millions de kilomètres. Des millions. Sans pédaler, tu descends. Comprenez ou non? À bicyclette. C'est bon. T'as le vent dans la figure, comme ça, t'es bien. Oh, c'est qui... Le vicieux, il met une radio à l'arrière. La musique, la brise, la pente. Il pédale pas, musique gratuite, descente. Et alors, il y a des gens, ils voudraient que la vie, elle soit comme ça. Donc, c'est sûr que celui qui est déjà sur la bicyclette, d'accord? Et en plus que la musique, la pile, elle est morte. Et qu'en plus maintenant, c'est plus une descente, c'est une côte. Il va baver. Puisque lui, il s'est éduqué au laisser aller. Et toi, tu lui dis maintenant, faut assumer. Est-ce que vous comprenez ou non? Pourquoi les gens, ils ont peur de la Torah? Tu sais pourquoi? Parce que la Torah, la première chose qu'elle te demande, assume. Il veut pas. Il dit, oh, 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 oh. Alors, il essaie de faire une Torah sympathique. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Mais au bout d'un moment, il faut quand même lui dire, tu sais, t'es un homme, t'es père de famille, Dieu, il a créé le monde pour toi, il faut y aller, là. Faut devenir un adulte. Faut y aller. Bon, alors, il fait pas teshuva. Bon, au moins, il s'assume. Il fait une thérapie. Il assume ses responsabilités d'homme, de père, de femme, de mère. Il fait pas ça, bon, au moins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, il a tellement peur d'être adulte, et tellement il kiffe d'être un enfant, le Yitzhara, c'est facile pour lui. Il lui dit, tu te laisses aller, tu te détends, je prends l'affaire en main, allonge-toi à l'arrière, je m'occupe du reste. Oh, c'est bien. Plus de décision, plus de réflexion, à sourd de réfléchir. Et tu vois ces gens-là, hein, ils appliquent l'interdit de réfléchir avec une minutie de chassidim. Ils ne veulent pas réfléchir. Enfin, tu commences à... Tu dis, qu'est-ce que t'en penses? Oh! Prise de tête, hein. S'il te plaît, hein. J'ai déjà... Ah bon? Avec quoi t'as la tête prise? Qu'est-ce que t'as là? Ton métier, tu le connais. Tes clients, tu les connais. Ta banque, tu sais les trucs. Qu'est-ce que tu fais? Quelle prise de tête? Timtoum Alev, c'est quoi? Cette impureté qui rentre à l'intérieur du cœur de la personne, c'est quoi? C'est le Yetzirah du laisser aller. Oh, c'est bon, tes trucs. Donc, pression mentale, 0. Pression psychologique, 0. Pression morale, 0. D'accord? Oui? Donc nous, on va dire, mais aucune pression! C'est bien, non? Il y a un danger, mon frère. Aucune pression. Dépression. Ah bah oui. Les gens, ils s'étonnent pourquoi quand ils font des avérotes, ils s'angoissent après. Pourquoi ils sont déçus d'eux-mêmes? Pourquoi ils ont honte? Pourquoi ils n'osent plus parler? Pourquoi ils sont écœurés de la vie? Parce que, mon frère, pression, mouvement. Non-mouvement. Dépression. Après, il vient chez toi. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas bien ce que j'ai fait? Pourquoi je l'ai fait? J'ai dit, attends, tu joues le jeu de qui, là? Tu regrettes, t'as une tâche, on va laver maintenant, avance, pédale, vas-y, avance, allez, dégage. Il dit, mais non, vous comprenez, j'ai un problème. Bouge-toi, allez, avance, allez, vas-y. C'est comme l'autre qui a peur, d'avoir peur, d'avoir peur, d'avoir des courbatures. T'arrêtes de te moquer, s'il te plaît. Tu cours et tu t'arrêtes de parler. Cours, vas-y, cours. Il dit, mais j'ai peur d'avoir peur, d'avoir peur, d'avoir des courbatures. Cours! Parce que de toute façon, tu les auras, les courbatures. Et après, tu seras bien. Il faudra des courbatures, mon frère. Ça n'existe pas. Depuis quand tu vois un type musclé? Tu vois un type, il lève 245 kilos. Tu dis, oh, quel courage. Ah mort, quel travail, ouais. Quel courage, 245 kilos. Tiens, prends-les, tu n'as pas du courage qu'il faut, c'est un suicide. Quoi. Comme ça, c'est fini. On te les met au-dessus de la tête. Même pas tu les soulèves, on te les dépose sur les épaules. Et tu vois les 10 qui partent un par un. Tac, 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 tac. C'est pas possible. C'est pareil. Et c'est quoi? C'est qu'en vérité, un homme, quand il faute, il perd ses repères. Pourquoi? Parce qu'il change sa vision des choses. La Torah, elle éduque la personne à devenir un homme, c'est-à-dire à être lui-même, à s'assumer, à se construire, à se satisfaire de ses efforts. Le Yetzer Hara, il t'éduque au plaisir du laisser-aller, au plaisir de l'immaturité, au plaisir de l'irresponsabilité. La guimauve. Tu la mets en haut, elle arrive forcément en bas, puisqu'elle coule. La guimauve. Oh, t'es une guimauve, toi? Dis qu'il faut redéfinir. C'est pour ça que c'est dur. Parce que quelqu'un qui s'est éduqué au laisser aller, quand tu exiges de lui qu'il se remette en cause, il te dit, je suis pas habitué, faut tout refaire. Vous savez, ils disent les médecins, quand tu manges et que tu n'élimines pas, tu accumules des toxines. Et après, quand tu veux à nouveau éliminer les toxines, ça coûte! Mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'un truc qui rentre avec le kiff, ça sort avec la douleur? Essayez de faire un régime un jour, vous allez comprendre. D'accord? Tu manges bien, encore un petit chocolat, une quatrième pizza, tu l'arroses de choucroute, la cinquième pizza, d'accord? Un bon plat de pâtes, en sandwich, dans un pain campagnard. C'est bon, non? Tu te sens bien? Après, tu vas chez le docteur, il dit, écoutez, votre... comment ils appellent ça? La masse pondérale? Comment ils appellent ça? La surcharge pondérale, c'est-à-dire que si on fait la soustraction de la graisse qui vous constitue, on arrive à un surplus de 30 kilos de plus que votre poids. Mais de plus que mon poids, oui. Parce que normalement, vous devriez peser 7 kilos. Et vous faites 117 kilos. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu dis, mais pourquoi ça rentre bien et ça sort mal? C'est normal. Ce qui rentre par le laisser aller, ça sort par les efforts. Donc ça fait mal. Ça va, compris? Le contraire. Ce qui rentre par les efforts, ça sort par le laisser aller aussi. Alors, comment tu vas faire? C'est impossible autrement. Donc, soit tu vas toujours maintenir les efforts, oui, soit tu vas faire des allers-retours. Ils font ça. C'est une religion. Ça s'appelle White Fetchers. D'accord? Ouais. 10 kilos, 5 kilos, 5 kilos, 10 kilos. Bonjour, content de vous voir. Je vous présente. Bonjour. Avant, je vous présente. Bonjour. Après. Ah, tiens, c'est quelqu'un d'autre. Non, c'est la même. Ah, tiens, c'est... D'accord? C'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un, s'il n'a pas envie de faire le yo-yo toute sa vie, il est obligé de choisir un camp. Il dit, ce camp-là, de la même manière que dans le physique, ça fonctionne comme ça, dans le moral et dans le spirituel, c'est la même chose. Parce que le physique, il a été créé pour que tu comprennes le spirituel. Donc, la grande force de la faute, la grande force du Yetzer Hara, c'est cette dépendance à la matière, cette dépendance au laisser-aller. Or, vous remarquez que la matière a un poids que l'antimatière n'a pas. Donc, plus une chose est matière, plus elle va vers le fond, c'est la force d'inertie. Donc, la léthargie, le laxisme, la lourdeur, que des L, d'accord? Ça vient de la matière. Donc, plus tu es lié à la matière, plus tu es lié à l'immobilisme. Plus tu es lié à l'antimatière, plus tu es lié au mouvement. Par exemple, vous savez qu'un électron, c'est beaucoup moins lourd qu'une voiture. Vous le savez. Ben, ça se déplace plus vite. Or, on remarque que la vitesse est toujours fonction du rapport avec la matière. Un exemple facile. Une voiture, elle roule moins vite qu'un avion, parce que la voiture, elle touche le parterre. L'avion, il roule moins vite qu'une fusée, parce que l'avion, il vole dans l'atmosphère, alors que donc il y a le frottement de l'air, alors que la fusée, elle vole dans l'espace. Maintenant, une fusée, elle va moins vite qu'une particule dans l'espace, parce qu'il y a quand même la masse de la fusée qui frotte. Alors que la particule, il n'y a pas de masse, il n'y a pas de frottement. Donc plus il y a de matière, moins il y a de vitesse. D'accord? Donc quand vous voyez des gens qui mettent longtemps à réagir, vous pouvez calculer combien ils sont constitués de matière par rapport à la vitesse à laquelle ils réagissent. Il y a des gens qui sont très matériels. Ils n'arrivent même plus à bouger. Ils te le disent. Je ne peux plus bouger. Je ne peux pas me remettre en... Je ne peux pas changer. On appelle ça des matérialistes. Maintenant, il y a des gens qui sont plus matérialistes que les matérialistes. C'est qui? C'est les matériaux. Il y a des gens qui sont matériaux. Ils sont pas matérialistes, ils sont matériaux. Pourquoi? Tu dis, mais, oh, faut pas exagérer quand même, là, il a exagéré. Non! Tu dis, ah, mec, c'est quoi qui compte dans ta vie? Dis-moi, ce qui compte, c'est ma voiture. S'il brique la voiture, il nettoie la voiture, il fait les cuirs. Cette année, si Dieu veut, il va se payer les anti-brouillards. Il a truc avec 10 CD, l'ABS, après il a le truc, l'ordinateur. Le mec, c'est sa voiture. Il prie pour trouver un cercueil où on puisse mettre lui et sa voiture. Tu dis, mais ta voiture, c'est un cercueil? Que n'y ai-je pas pensé? D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mec-là, il est devenu une voiture. Tu dis, chas de shalom. Écoutez-moi bien, je l'ai lu en statistique. Je ne sais plus combien il y a de pourcents de Français qui changeraient plus facilement de femme que de voiture. Je ne me rappelle pas du chiffre, hein, mais ça tournait autour des 55%. Je ne sais pas si vous sentez la blague. C'est que si un type, tu lui dis la femme ou la vie, mais si tu lui dis la voiture ou la vie, aucune hésitation. C'est sa voiture, c'est sa vie. Ce mec-là, il n'est pas devenu un matériau. T'as compris ou non? Il y en a, c'est pour le ballon. Hein. Il y en a pas qui sont prêts à se couper une main pour avoir le ballon de Zidane. Le ballon de Zidane. Tu te rends compte? Le ballon, attention, de Zidane. Tu dis, mais c'est du plastoc. C'est... Oui, mais c'est le ballon. Tu dis, tu sais quoi? Je vais t'enfiler un, je vais marquer des Zidane, ça va? Oh non, c'est pas pareil. Il a mis son pied dessus. Alors, je vais faire mieux. Mets ta tête par terre, je vais amener son pied. C'est pas des matériaux, ces gens-là, franchement. Mais qui se bagarrent parce qu'on lui a craché sur son panneau du PSG. Il n'est pas devenu un matériel, celui-là. Comprenez ou non? Les gens, ils rigolent de l'idolâtrie. Mais l'autre, il fait 900 km à vélo pour aller voir un match. Il n'est pas... À Bataille, un homme, il peut devenir un matériel. Pas matérialiste. Matérialiste, c'est gentil. Il peut devenir matériel. Il est matériel. C'est ça sa vie. C'est ça son truc. Comment il l'a fait? C'est marqué En anamet elaimken chote. Un homme ne meurt que s'il a fauté. Alors ça, je vous l'ai expliqué. Et je vous l'ai réexpliqué. Et je vais vous le réexpliquer. C'est pas grave. Un homme, il est fait en trois parties. Le corps, le nefesh et la neshama. Le corps, c'est le corps. Le nefesh, c'est la psychologie, c'est la personnalité, c'est le jeu. La neshama, c'est un morceau d'Hachem. Maintenant. La neshama, elle est de toute façon éternelle. Elle est faite d'une énergie qui n'existe pas dans ce monde. Elle vient d'Hachem directement. Le corps, il fait partie de ce monde. Quand Hachem a créé le monde, il a créé un certain nombre de molécules. Ton corps fait partie de ces molécules. D'accord? Donc ton corps vient de la poussière, il retournera à la poussière, que tu le veuilles ou non, un jour tu seras dans un meuble d'IKEA. C'est une redistribution des particules, d'accord? Tu dis, il faut savoir que la terre des cimetières est beaucoup plus fertile que les terres vierges. Donc quand les carottes sont épaisses, c'est peut-être ta grand-mère là. Tu dis, mais c'est écœurant.
Ah, parce que toi, tu croyais que ta grand-mère, c'était un corps. Moi, ma grand-mère, c'était une personne. Donc, quand on lui a enlevé son corps, moi, c'était toujours ma grand-mère. Parce que toi, ta grand-mère, c'était un corps. Et quand on lui a enlevé son corps, il n'y avait plus de personne. Ma grand-mère, c'est une personne. Ma grand-mère, elle a vécu, elle vit et elle vivra. Parce que c'est une personne. Et une personne, elle est éternelle. Tu me parles de quoi? D'un corps? Un corps, c'est une pochette en plastique. Quand tu as fini avec la pochette, tu la balances. Pourquoi t'es écœuré? Donc ça te fera de la peine d'être une carotte. Dommage, parce que tu vas être un poireau. Il faut être réaliste, Rimbaud-Taille. Est-ce que vous me suivez? Moi, c'est pas pour vous écœurer maintenant, pour vous dire, comme ça, ils parlent des grands-mères. Non. C'est pour vous dire que nous sommes des personnes, nous sommes pas des corps. C'est-à-dire qu'un homme, il doit accepter que son corps, c'est un outil. C'est rien, c'est un outil. Ton stylo, t'as réussi le bac avec, mais tu l'as pas gardé jusqu'à ta mort, non? T'as réussi le bac avec, tu l'as jeté. Parce que tu dis, le stylo c'est rien, c'est ce qu'il y a derrière, Hazak. Eh ben le corps c'est un outil. Ce qui est important c'est ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui nous prend la tête? Vous comprenez ou non? Et tu dirais, la culture physique, le body. Et je te dis, moi, il sculpte un corps. Oh, il y aura moins à manger, d'accord? Si vous comprenez ça. Il y a le corps, il est matière, d'accord? L'aneshama, elle est non-matière. Je dis pas qu'elle est antimatière, elle est non-matière. Mais alors, le jeu, le nefesh, il est au milieu. Maintenant, il faut que tu choisisses, mon frère. T'es où? T'es là ou t'es là? Alors, toute la vie, un homme, il se balade. Le Yetzara, il dit, viens, 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 approche-toi de ton corps. Sois un homme libre, sois un animal libéré. Tu dis, je peux pas. L'aneshama, elle te dit, viens, approche-toi, bon, viens, allez, réfléchis, casse-toi la tête, écoute la musique, développe ta tête, développe ta sensibilité, détache-toi de la matière, touche à la transcendance, touche à la prophétie, ah, viens, tu tiens la main, l'aneshama, en haut, ou le contraire, en bas, toute la vie, un homme, il se balade, ou la matière, ou la non-matière. Maintenant, je vous dis tout de suite, ce monde-ci, c'est un monde de matière, il a été créé. Toute la matière, elle a été créée. Tout ce qui a été créé a un début, ça va? Et tout ce qui a un début a une fin. Quand la maman, elle fait la tarte aux pommes, elle se dit, je mets une tarte aux pommes au monde. Elle doit se dire que cette tarte aux pommes, dès qu'elle va arriver sur la table de la salle à manger, elle est condamnée. Vu les petits morfalous qu'elle a mis au monde, eh ben elle est condamnée. Donc depuis sa naissance, cette tarte aux pommes est condamnée. Donc le monde, c'est pareil, il est créé, il a un début. Puisqu'il a un début, il a une fin. Pourquoi la matière, elle a une taille? Vous n'avez jamais demandé ça? Demandez à un physicien. Dites-lui, monsieur le physicien, j'ai une question. Il veut dire, oui, doctorat de physique, agrégé de la Sorbonne, d'Artada. Pourquoi la matière a une taille? Il va vous dire, écoutez, nous constatons de manière significative, au travers d'expériences et de relever que la matière a une taille, mais pourquoi? Effectivement, parce que pourquoi l'énergie n'a pas de taille? Et pourquoi la matière a une taille? Et il va dire, mais écoutez, c'est vrai, ça, il a des questions, cet idiot-là. Alors tu vas lui dire, c'est normal, parce que l'énergie, c'est la volonté d'Hachem qui est exprimée dans la matière, et la volonté d'Hachem, elle est comme Hachem, elle n'a pas de taille. Mais la matière, c'est l'expression de la création elle a un début, tout ce qui a un début a une fin, donc la matière, elle a une taille. Il va te dire, mais tu pourrais venir au CNRS pour... Tu dis, pourquoi perdre du temps? Dommage pour eux. Faut les laisser rêver. D'accord? Mais non, au contraire, en bataille, c'est simple. La matière, elle a un début, tout ce qui a un début a une fin. D'accord? Donc la matière, elle contient la notion de la limite. Donc celui qui est lié à la matière, il est lié à la limite. Donc la lutte contre la limite, c'est la lutte contre la matière. Donc la liberté, qui est la lutte contre la limite, c'est la lutte contre la matière, Hazak. Donc plus t'es matière, plus t'es limité, moins t'es libre. C'est linéaire. On peut ne pas être d'accord, mais c'est sûr que c'est vrai. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la Torah, elle me dit « Préserve-toi de la matière », ça veut dire « Deviens de la non-matière ». Maintenant, plus tu vas être matière, plus tu vas avoir les caractéristiques de la matière. Or, depuis où Newton, On l'avait remarqué avant, mais on n'a pas osé le dire tout fort. Depuis Newton, quand on jette un truc en l'air, il tombe vers le bas. Ça s'appelle la pesanteur. Bravo Newton. D'accord? Eh ben, c'est pareil chez l'homme. Quand un homme, il ne s'élève pas vers le haut, il subit un effet de pesanteur. C'est pour ça qu'on appelle ça les gens lourds. Parce qu'ils descendent vers le bas. Et plus t'es lourd, et plus tu vas vers le bas. Et il y a des gens très lourds, attention. Il faut savoir que le mercure, c'est 13,8 kg au litre. Mais il y a des gens, si vous pesez leur sang, c'est proche du quintal. Il y a des gens très très lourds, mais d'une lourdeur. Mais des fois, c'est incroyable. Tu dis, écoute, c'est pas au nom de la Torah, c'est même pas au nom de l'intelligence. Mais réfléchis, il pop et dit, non, il est lourd. Pourquoi? Parce qu'il est matière. Matière, lourdeur. Matière, immobilisme. Est-ce que vous avez déjà croisé un carré de béton dans la rue? Un carré de béton, 1 mètre sur 1 mètre, vous ne l'avez pas croisé. Vous comprenez ou non? Tu dis, tiens, j'ai croisé un carré de béton. Tu dis, mais un carré de béton ne se déplace pas. Pourquoi? C'est pourquoi? Parce qu'il est extrêmement matière. Mais un homme aussi, il a du carbone. Mais moins qu'un carré de béton. Un homme, il a 80% d'eau, il est moins carbone que le béton. Plus il y a de carbone, plus il y a d'immobilisme. D'accord? Donc plus un homme il est matière, plus il est immobile. Plus il est immobile, plus il est laxiste. Parce qu'il n'y a pas de différence entre le laxisme physique et le laxisme mental et le laxisme spirituel. Vous comprenez ça ou non? Quelqu'un, il est lourd physiquement. Il n'a pas envie de se bouger. D'accord? Demain, il va être lourd psychologiquement. Il va dire, j'arrive pas à réfléchir. Après-demain, il va être lourd mentalement. Il va dire, je suis angoissé. Parce qu'il descend. Rabotaille. C'est la loi du Titanic. Ça va vers le fond. Tu te rapproches du fond. Le Yetzirah, il te tire vers le fond. Il te dit, viens, descends. C'est ce qu'on a dit, la sensation du laisser-aller. Imaginez quelqu'un qui nage dans le Titanic, dans l'Atlantique. Il nage. D'accord? Et puis il avait emmené une radio avec lui. On lui dit, tin, vous êtes à 7400 kilomètres de New York, mais à peine à 6200 de Dunkerque. Il a une âme profonde. Il est dans l'Atlantique, nord. Il fait moins 12, d'accord? Il doit nager. Franchement, de vous à moi, on est des gens compréhensifs. Au moment où il dit, allez, laisse tomber. Et il le dit en plus. Il n'a pas un sentiment de bien-être. Presque un sentiment de chaleur. Il se laisse couler. Il le dit, je me laisse couler. D'accord? Oui ou non? Alors vous allez me dire, alors quoi dans la Torah? On n'a pas le droit d'être cool. On peut être cool, mais pas comme les fromages. Coulant. Non, bon, dommage. D'accord. Oh, j'ai trouvé pas mal. Donc, c'est pareil, si vous comprenez ça. Si vous comprenez ça. Et si vous avez compris maintenant comment il marche le métabolisme de quelqu'un, mais comment il marche aussi la psychologie de quelqu'un, comment il marche l'aspect spirituel de quelqu'un. La Torah, elle te propose des actes, des mouvements, des obligations. Elle te propose aussi des protections. Elle te propose une projection. Elle te propose une ambition pour que tu te bouges. Parce que c'est la Torah que le non-mouvement, c'est dangereux. Maintenant, le Yetzirah, lui, il t'engage au non-mouvement. Quand il t'engage au non-mouvement, il te rapproche de la matière qui elle-même ne bouge pas. Plus tu deviens matière, plus tu te rapproches de la mort. Puisque pourquoi est-ce que la matière a une fin? Parce qu'elle est limitée. Donc si la matière, écoutez bien, elle a une fin physique, ça a une certaine taille, donc automatiquement, elle a une fin temporelle. Parce que l'espace et le temps, c'est deux éléments qu'on ne peut pas dissocier. Qui c'est qui a dit ça? Einstein, Razak. Et qui c'est qui l'a dit avant? Le Zohar, juste 3000 ans avant. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas séparer la matière et le temps. Donc si la matière est limitée dans l'espace, elle est limitée dans le temps. Donc si tu deviens matière, tu deviens limité dans l'espace et dans le temps. Or c'est marqué, un homme ne peut pas mourir s'il n'a pas fauté, parce que la faute, c'est le lien exacerbé avec la matière. Ça va? Donc avec le temps. Donc un homme ne meurt, puisque la mort c'est la limite dans le temps, que s'il a fauté, parce qu'il est lié à la matière. Donc plus il est matière, plus il est limité dans le temps.
Vous avez compris ou non?
Ça, c'est ce qu'elle produit, la faute.
Donc si ça, c'est la tâche, Rabotai,
comment il est le détachant?
Il faut que tu me trouves un truc qui détache en profondeur.
Est-ce que vous comprenez? C'est comme si, par exemple, c'est un type, il achète un château. Il achète un château. Mais il n'avait pas fait attention. Mais dans la salle à manger, qui fait 74 mètres carrés, une grande salle à manger, il y a une tache de 20 cm sur 20 cm, noire, par terre, sur le marbre blanc. C'est un marbre d'Italie, d'accord? Qui est en un seul morceau. 74 mètres carrés, c'est rare, d'accord? Il est en un seul morceau, il y a une tache au milieu. Quand il a acheté le château, bon, 11 000 mètres carrés, il n'a pas fait gaffe aux 20 cm de tache. Puis maintenant, il arrive, il dit, écoutez, j'ai un problème. Alors, il appelle un spécialiste des tâches. Il dit, voilà, est-ce que vous pouvez m'enlever cette tâche? Alors, le type, il dit, écoutez, je peux vous l'enlever, la tâche. Mais on a fait des sondages par sonar électro-traloanique. Et on s'est rendu compte que cette tâche, elle fait 20 cm de large, effectivement. Mais elle fait 11 km de profondeur. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on enlève la tâche? Parce qu'on va avoir des problèmes avec les eaux territoriales de l'Australie. Pardon? C'est possible. C'est pareil. Nous, quand on voit notre Avera, notre petite Avera, mignonne, sympathique, gentille, 19 ans, d'accord? Bon. C'était le bouteille de whisky qui avait 19 ans d'âge. Hein. C'est caché, le whisky. Alors, whisky italien, à l'huile d'olive, d'accord? Donc, quand vous avez cette tâche dans votre vie, vous dites, oh, ça va, une petite faute entre 14h15 et 15h17, ça va! 20 cm. Il dit oui, ça c'est la face externe de la tâche. Mais la tâche en profondeur, elle est profonde. Pourquoi toi-même tu as ce sentiment de tâche toi-même? Pourquoi? Elle est incarnée la tâche. Tu te sens tâche. Pourquoi? Parce que c'est profond. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors il te dit, j'ai un détachant. C'est pas vrai. J'ai un détachant. Comment il s'appelle? Kippour. Pas très commercial. Mais efficace. 11 km de profondeur, ça détache. Comment on va détacher? Rabotai, la seule façon de se détacher, regardez, d'une tâche, faut se détacher de la tâche. Oui? C'est ça? C'est Kippour? Pourquoi? Ah ben maintenant, on va regarder le détachant. Vous savez que tous les détachants, il y a des acides dedans. Toujours. Ça attaque, ça bouffe, ça... Enfin, attention, hein, comment on les utilise. Ça dilue, ça dissout, ça détruit. Alors, quels sont les diluants? Quels sont les acides de Kippour? Il y en a 5. Kippour, vous n'avez pas le droit de manger. Vous n'avez pas le droit de boire. Vous n'avez pas le droit de vous laver. Vous n'avez pas le droit d'avoir des relations charnelles. Vous n'avez pas le droit de vous joindre avec des huiles, et sans, avant à l'époque ça se faisait, bon ça se fait plus aujourd'hui, bon, parce que les gens se sentent bons naturellement, d'accord. Donc, avec des huiles, et on n'a pas le droit non plus de porter les chaussures en cuir. D'accord? Ça fait plaisir de manger quand même, de temps en temps. Il y en a qui font ça 3 fois par jour. Hein. De boire aussi, ça fait plaisir. D'accord? Porter des chaussures, c'est agréable par rapport à être pieds nus. D'accord? Aussi, de mettre de soindre d'huile, ça fait du bien. Quand vous allez dans les... Il y en a, ils vont en thalasso, traloado, là-bas, on leur met des massages, huiles essentielles, boue, comme si ça suffisait pas de se traîner dans... Bon, c'est pas grave. Bon. On leur met de la boue, ils sont contents, ils sont bien! Ça leur rappelle des pigolimes de crapaud, c'est bien, dans la boue. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? La Torah, 5 fois, elle t'a donné des inouïm, ce qu'on appelle des 5 types de souffrances, 5 types de difficultés, 5 types de jeûnes le jour de Kippour. Tu manges pas, tu bois pas, tu te laves pas. C'est dur de pas se laver. C'est dur. Non, il y en a pour qui c'est dur. Hein. C'est dur de pas avoir de relations, c'est dur de pas boire, c'est dur de pas manger, c'est dur de pas porter les chaussures. Qu'est-ce que c'est? Manger et boire, c'est ingurgiter, c'est avoir le lien avec le matériel, absorption. J'ai déjà expliqué dans les cours que des fois, le lien avec le matériel par la bouffe, il n'est pas simplement je mange.
D'accord? Il y a beaucoup de gens, j'existe par le manger. C'est ma façon d'exister. D'accord? Je m'affirme, j'assume, je vais au bout de mon assiette. Non, il y a, c'est tout un combat. Donc je m'assimile à la matière par le manger. D'accord? J'absorbe, je grandis, je m'étale. Oui, je grandis. Les habits, les chaussures en cuir, c'est quoi? C'est le kavod. Le kavod de l'homme, c'est son vêtement. Par exemple, dans les commissariats, les petits délinquants, on les met d'abord tout nus. Après, on discute. Parce que le type, avec son jean et son blouson, il frime, et tout nu, il frime plus. Là. Voilà, les flics, Donc, tu t'appelles Eugène Dubidon. C'est bien ça ton nom? Oui, oui, tout le monde t'appelle Gégé, mais tu t'appelles Eugène. Et commence à les sentir profondes. D'accord? Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, l'habit, c'est le kavod. L'habit, c'est le kavod. C'est pour ça que les nazis, ils enlevaient les habits, ils donnaient un habit impersonnel. Parce que quand on enlève l'habit, on enlève le kavod, on enlève le respect de la personne. Donc la Torah, elle te dit, à Yom Kippour, t'enlèves les chaussures en cuir. Un kavod, enlève. Le plaisir physique par le manger, enlève. Plaisir charnel, aussi c'est une forme d'existence, enlève. Plaisir extérieur, pas intérieur, extérieur. D'accord? Les huiles, enlève. En fait, toutes les relations, tous les types de relations que tu peux entretenir avec la matière, la Torah te dit que tu coupes. Tu coupes. 5 fois tu coupes. Qu'est-ce qu'on a dit nous? On a dit que la faute, c'était le lien que tu entretiens avec la matière. Qu'est-ce que c'est maintenant les inouïm? C'est quoi ces difficultés? Alors il dit Rav Dessler que les issourim, comme vous savez c'est marqué qu'on envoie des difficultés à quelqu'un pour expier la faute. Alors tout le monde dit mais pourquoi il faut envoyer des problèmes à quelqu'un? Pourquoi il faut des angoisses? Pourquoi? Pourquoi? Parce que les issourim, il dit Rav Dessler, c'est des petites morts. Des petites morts. Chaque difficulté, c'est une petite mort. Il y a la grande mort, c'est la fin de la vie. Il y a des petites morts, par exemple. Quelqu'un, il perd 10 000 francs en liquide. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? On a une formule très connue chez les kabbalistes. On appelle ça Mshikapara. Je sais pas si vous avez fait de la kabbale. Bon, les gens disent, bon, il vaut mieux que ça parte dans l'argent. Oh, mais ça lui fait quand même un petit pincement. 10 000 en liquide, comme ça, pas de preuve, pas de papier, pas d'assurance, rien, comme ça. Allah, 10 000. D'accord? Maintenant, lui, ces 10 000 là, quand on lui a enlevé, on l'a un peu tué. Parce que lui, il dit, mais moi, j'aurais pu vivre avec ces 10 000. Alors, on dit, mais comment tu as gagné ces 10 000? Alors, il dit, c'est vrai que pour les gagner, je me suis tué un peu. Comme t'as tué du spirituel pour gagner les 10 000, on t'a tué les 10 000. Pour que tu récupères du spirituel. Vous me suivez ou non? Vous suivez pas? Par exemple, quelqu'un dit, moi je fais pas les maths. Je joue au foot. C'est quoi l'accaparat? Fais des maths. T'as rien à faire. Tu dis, mais pourquoi? On pourrait faire autre chose, on pourrait faire du vélo, on pourrait faire... Non, t'as pas compris. Les maths, c'est l'esprit. Le foot, c'est les jambes. Tu dis, mais on peut pas se muscler l'esprit à force de... Parce que quelqu'un, une fois, il m'a dit que pour avoir un bon cerveau, il fallait l'oxygéner. Et le mouvement physique oxygène le cerveau. Donc, en oxygénant le cerveau, on va avoir une super tronche. Non. Parce que la tronche, elle se développe quand tu l'utilises. Mais les cuisses ne développent pas la tête. Au contraire, ils ont calculé que à chaque fois qu'un footballeur professionnel met un coup de tête dans un ballon, il perd des centaines de milliers de neurones qui explosent à cause du choc. Et qu'il a des grandes chances de finir parkinsonien à cause des coups de tête qu'il a mis. Je parle pas du boxeur, lui il est parkinsonien déjà, lui, d'accord. Mais l'autre. Donc tu peux pas devenir intelligent en tapant dans un ballon. Le maximum qui peut t'arriver, c'est que la même densité d'air qu'il y a dans le ballon, tu l'as dans la tête, à la fin. C'est pas une maladie, c'est... Ouais, mais c'est pas possible. Avec la même pression, hein. Attention, faut voir la pression, on est les footballeurs. Hein. 12 barres, d'accord. Si c'est comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Que les issourim, c'est une petite mort. Pourquoi c'est une petite mort? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le Yetzer Hara, il est venu chez toi. Il t'a donné la matière. La matière, elle t'a appris le plaisir facile. Elle t'a appris l'immobilisme. Elle t'a appris la déprime. Elle t'a appris le laisser aller. Donc toi, maintenant, t'as tout un système de vie qui est orienté sur le vide. Ça va? Maintenant, je te dis, mais il y a la vie à part ça. Si je dois te faire passer d'un côté à l'autre,
il va bien falloir que je tue quelque chose. Alors quand je tue tes 2 heures de foot, je fais apparaître 2 heures de maths. Donc quand je te tue 10 000 balles, je te fais apparaître la vie. Mais pour toi, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Pour un glandeur, les maths, c'est la mort. Mais quand il est ingénieur, maintenant le glandeur, il dit, mais les maths, c'est la vie. Le problème, c'est comment il va passer les années où il n'est pas encore ingénieur. C'est-à-dire comment est-ce qu'il va vivre le temps de devenir. Comme les enfants. Par exemple, tous les enfants du monde, ils sont rasés par les conseils de leurs parents. D'accord? Et pourtant, tous les enfants du monde, à 40 ans, se surprennent à donner exactement les mêmes conseils que leurs parents. Mais le plus vicieux, c'est dans les mêmes mots. Le type, il a fait une révolution parentale. Complète! Il a rejeté son père dans le fond. D'accord? Son père, il était Hazan de la victoire. Et lui, il était Hazan à Katmandou. Katmandou. C'est Katmandou? C'est pas une synagogue, hein? Donc, il a rejeté. Il est revenu en France, il a épousé par hasard une juive, il savait pas, elle s'appelait Cohen, il savait pas. Bon. Il a eu des enfants. Et lui, monsieur Krishna, monsieur que de cheval, maintenant, il dit les mêmes choses que son père lui disait quand il avait 10 ans. Il se surprend. Il dit, mais alors pourquoi j'ai fait la guerre avec mon père puisque je reproduis le même schéma? C'est les psychiatres qui ont dit ça, c'est pas moi. Barbonote, ouais. À Bataille, ça veut dire une chose simple. Ça veut dire que un homme, dès qu'il naît, il a le Yetzerara. À partir de 12 ans, il a le Yetzeratov, le bon penchant. Donc, un homme, il a été éduqué pendant 13 ans par le Yetzerara. Donc, il y a de très grandes chances que lui, il croit que le Yetzerara, c'est lui. Puisqu'il n'avait pas le contrepoids. À 13 ans, le Yetzeratov, il arrive. Mais le Yetzeratov, c'est une minorité, puisqu'il a 0,1. Quand le Yetzara, il a 13 ans, donc vous mettez un bébé qui sort du ventre de sa mère, en sang, jeté par terre, à côté d'un enfant de 13 ans, avec un nunchaku dans les mains. Est-ce que le combat est égal? Il n'est pas égal. En plus, le Yetzara, il se développe tout seul. Le Yetzeratov, il faut le développer. Donc si tu le développes pas, il reste un gamin. Et tu vois, le type, c'est un gamin. Parce qu'il n'a pas développé son Yetzeratov. Donc le Yetzara, il t'a éduqué à la matière. Le Yetzara, il t'a éduqué au laisser aller. Mais puisque lui, il croit qu'il est son Yetzirara, et que quand il fait la volonté de son Yetzirara, il fait sa volonté à lui. Vous comprenez ou non? Pourquoi un type, il veut faire une Avera, tu lui dis arrête, et tu dis laisse-moi vivre? Parce qu'il croit que quand il fait la volonté de son Yetzirara, il vit. Est-ce que vous comprenez ça? Oui ou non? C'est faux! La preuve! Si de vivre, c'est de faire des Averotes, alors pourquoi est-ce que tu meurs pas quand tu fais des Mitzvot? Pourquoi tu meurs pas quand tu fais pas des Averotes? Il t'a roulé, le Yetzirara. Il t'a fait croire que lui, c'était toi. Mais c'est pas toi. Mais comme toi, tu crois que lui, c'est toi. La preuve, quand tu veux faire des bêtises, tu dis « je ». Comprenez ou non? Donc si toi, on te dit « fais une mitzvah » et que toi, t'as été éduqué à la matière, donc de faire un effort dans la matière, c'est la mort pour toi. Comprenez ou non? Or, comme le Yetzirah, il t'a éduqué à la dépendance, à la bouffe. Donc quand on dit « aujourd'hui, ne mange pas », en tant que corps, tu meurs. Je te dis « mais en tant que personne, tu devrais pas mourir ». Parce que c'est rien pour une personne de pas manger. Ce qui est dur, c'est pour un corps de pas manger. Mais comme t'es devenu un corps, parce que t'es devenu matériel, peut-être matériau, pour toi de pas manger, c'est une petite mort. De pas avoir une relation charnelle, c'est la mort. Les gens ils me disent, mais comment, mais la femme est interdite pendant la nida, mais enfin, mais je peux pas. Je lui dis, écoutez, vous êtes pas un cheval, quand même, vous pouvez, faites un effort, je sais pas, même les généticiens, même les cancérologues vont vous dire, écoutez, pendant cette période, la femme, les muqueuses sont fragilisées et il y a des risques de cancer. Donc, il faut laisser le corps tranquille. Ah, tu dis, oh, ça tombe bien, c'est juste pendant la période durant la Torah, durant laquelle la Torah est interdite les relations. C'est sympa quand même. Bon, alors tu vas pas lui faire le cancer parce que t'as un problème. Tu dis, mais écoutez, je suis un homme. Soigné. Il faut chez les masses. Deux jours après ton mariage, d'accord. Mais 1 an, 2 ans, 10 ans, t'as compris que t'as une personne en face de toi, c'est plus un corps, c'est une personne. Donc tu la respectes. Toi aussi, tu te considères comme une personne. Donc quand ton corps, il te dit, allez, tu lui dis, hey, c'est moi qui conduis la voiture. Mais si c'est ton corps qui t'entraîne, tu lui dis, alors je suis quoi, moi? Un jeune bœuf évolué? Mais viande française. La belle rouge. Tu changes, je suis une personne. Donc la personne, elle maîtrise le corps. Mais si moi je suis devenu un corps, donc quand on m'enlève de mon corps, je meurs. Si vous me suivez ou non. Et tu veux une preuve. Regarde, quand tu fais un boulot qui t'intéresse, ou que tu es dans un projet qui t'intéresse, t'oublies pas de manger. Ça te dérange pas. Des fois tu manges pas, de la veille jusqu'au lendemain soir, et t'as oublié, tellement t'étais pris dans ton projet. Donc ça veut dire que quand tu vis quelque chose de prenant, t'as plus faim. À Bataille, c'est normal. Parce que quand tu vis quelque chose de prenant, c'est plus spirituel que de bouffer. Bouffer, c'est l'appel du corps. Le corps, il est matériel. Alors que d'être pris par quelque chose d'intéressant, c'est plus proche de la neshama. Donc il n'y a plus besoin de manger là. C'est le corps qui a besoin de manger, la personne n'a pas besoin de manger. Donc quand t'es une personne, t'as pas besoin de manger. Donc ça te manque pas. Mais quand t'es un corps, ça te manque. Alors le même type, tu lui dis faut jeûner à Kippour. Il dit ah non, je peux pas. Je vais mourir. Le docteur, il a dit 3 repas par jour. Je dis, mais quand t'as monté ta boîte, combien de fois t'es resté 1 jour, 2 jours, 3 jours sans bouffer? Pendant 8 ans, c'est vrai, je me suis esquinté, c'est vrai, je mangeais pas. Clop. C'est vrai, je mangeais pas. Alors qu'est-ce que t'as compris, mon frère? T'as compris que la viande, elle demande la viande. Et que la personne, elle demande pas la viande. Or, puisque la personne, elle est devenue de la viande, donc la seule manière de la détacher de la viande, c'est de lui enlever la viande. Ah, ça fait mal. Mais dis-moi, quand tu jeûnes à 13 ans, ça se fait plus mal qu'à 14, qu'à 15, qu'à 16, qu'à 18. Si à 40 ans, ça te tanne encore de jeûner, ça veut dire que t'es pas encore un adulte. Parce qu'un adulte, il doit dire, bon, ça va, si je mange pas 24 heures, ça va. Au point de vue corps. Vous comprenez ou non? Par exemple, tu vas en congrès et il n'y a rien à manger. Et ben, tu manges pas. Tu dis pas, faut que je mange. Et si j'étais dans le désert, j'aurais le droit de manger du chien. Non, il n'y a rien de cachère. Ben, tu manges pas. Tu prends un verre d'eau, achète des fruits. Je peux pas, je vais mourir. Essaye, tu vas voir que tu vas pas mourir. Tu vas voir que tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir, je te promets, je m'engage. Et si tu meurs, je mettrai des fleurs. Mais c'est rare de trouver quelqu'un qui meurt au bout de 24 heures de jeûne. Surtout qu'après, pour une déception amoureuse, il va jeûner pendant 6 mois. Donc ça m'étonne qu'il n'est pas prêt à jeûner. C'est pareil ici. Donc si tu dis que la définition de la vie, pour toi, c'est le matériel, donc automatiquement, les issourim, ça s'appelle la mort. Vous avez compris ou non? Parce que c'est le contraire de la vie. C'est clair. Donc, quand le Rav Dessler, il dit que chaque difficulté, chaque souffrance, c'est une petite mort, c'est pas au regard de la personne, c'est au regard du corps, c'est au regard du Yetzirah que c'est une mort. Mais au regard de la personne elle-même, c'est pas une mort. Alors si c'est comme ça maintenant, on peut comprendre ce qui est marqué dans la Mishnah, dans Yoma, à la fin du 8e péri. Amar Rabbi Akiba. Il a dit Rabbi Akiba. Ashrechem Israël. Soyez heureux, Israël. Lifne mi atem etairim. Devant qui vous vous purifiez? Ou mi mitair etrem. Et qui vous purifie? Avichem Shebashamaim, votre Père dans le ciel. Akadosh Baruch Hu. Chez Nehemar, car il dit dans le Pasuk, Vezarakti alechem ma'im torim. Je jetterai sur vous des eaux pures, ou te'artem, et vous serez purs. Vous serez purifiés. Ve'omer, il amène un deuxième Pasuk, c'est marqué Mikve Israël Hachem. Hachem, il est appelé le Mikve, le bain rituel d'Israël. D'accord? Et dit la Mishnah, ma mikvé mita'er et tatmeim. De la même manière que le mikvé, le bain rituel, il purifie les gens impurs. De la même manière, Akadosh Baruch Hu, il purifie les béné Israël. C'est la Mishnah. C'est ce qu'il a dit Rabbi Akiba. D'accord? Alors nous, on dit, on comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est marqué, devant qui vous vous purifiez? Et qui vous purifie? Je comprends pas. C'est l'homme qui purifie devant Hachem? C'est Hachem qui te purifie? Comment ça marche? Et deux psukim. C'est quoi deux psukim? Je jetterai sur vous des eaux pures, des eaux purifiantes, et vous serez purs. D'accord? Et un autre passou qui dit à Gjmourou, il est considéré comme un mikvé. D'accord? Attendez, dites-moi, quelle différence entre la pluie et le mikvé? Les deux, c'est des eaux du ciel. Mais c'est différent, c'est simple. La pluie, elle tombe sur toi, le mikvé, c'est toi qui rentres dedans. C'est très rare. d'être agressé par un mikvé. Vous savez, quelqu'un qui va dire, oh, j'ai un mikvé qui m'est tombé dessus et j'étais trempé. La pluie, ça peut arriver. Mais des fois, il y a autant de quantité d'eau que dans le mikvé. Hein. Alors, c'est une contradiction. Deuxièmement, qui c'est qui va faire? C'est nous ou c'est Hachem? Alors, les commentateurs, ils expliquent qu'il n'y a pas de problème. Ils disent, en vérité, il y a deux étapes et il y a deux types de personnes. La première étape, c'est l'étape la plus logique que l'on connaît. C'est quoi? C'est qu'un homme, il fait teshuva. Un homme, il regrette. D'accord? Un homme, il pleure sur ses averot. Il va faire exactement ce que la Torah, elle demande. Il va pas manger, il va pas boire, il va pas se laver, il va faire attention à chaque détail. Et il va ressentir physiquement. Il va ressentir physiquement. Comme il va ressentir physiquement, ça va lui faire un manque. Et ce manque-là, il va le sublimer parce qu'il est en train de prier, par exemple. Vous savez que, à Kippour, on fait 5 prières. Chaque prière, elle doit expier les mauvaises prières qu'on a fait dans l'année. Par exemple, dans l'année, des fois, t'as mal fait Arvit. Tu l'as fait un peu vite, Arvit. Ça t'arrive. Ça m'arrive aussi. M'arrive. Bon, c'est pas grave. D'accord? Donc, on fait mal à Arvit. Alors, Arvit de Yom Kippour, c'est pour faire la capara de tout l'Arvit bidon que t'as fait. D'accord? Donc, là, tu vas bien faire. Baruch, Atah, Shema, Israël. Bien. Shacharit, tu fais la capara de tous les shacharit bidons. On a fait des shacharit bidons. Hein. Surtout après l'heure. D'accord? Mincha, mincha. Moussaf, bon. C'est bien. Chaque prière, elle va être la capara. Elle va être une capara. Très bien. Quand t'es pris en train de faire la prière, et que t'as rien d'autre à faire à Kippour, hein. Kippour c'est comme Shabbat, c'est même pire que Shabbat. D'accord? Donc tout est interdit, y a rien à faire. Tu peux pas travailler, faire des calculs, écouter la télé, rien. La prière, matin jusqu'au soir. Donc, vous savez que la prière, c'est même pas un acte, la prière. La prière, c'est du bruit. La prière, c'est du son. La prière, c'est immatériel. La prière, c'est un pleur qui sort de ton cœur. Toi, tu vas te dématérialiser complètement dans la prière. Tu deviens prière. Comme tu es prière, tu n'es pas corps. Mais le corps, à part ça, il a faim, il te dit, hey, j'ai faim. Alors. Bon, encore une fois, t'as 7, 8 ans, t'as 9 ans, tu dis, ce soir, on va se prendre la salade cuite, les boulettes de mamie, on se raconte les recettes. 8 ans, 9 ans, ça va, mais t'as 20 ans, 40 ans, ça y est, ça suffit. Tu dis, bon, c'est pas grave, je mangerai ce soir. Comprenez ou non? Donc, toi, tu t'éloignes de la matière, et tu te rapproches du spirituel. Tu deviens entièrement prière. Ton travail à toi, dans la teshuva, parce que ça fait 40 jours que tu te prépares, d'accord? Tous les jours de Elul, plus les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, tu t'es préparé. Donc, t'as donné une priorité au spirituel, t'as décidé que Dieu allait te juger, tu regrettes les fautes que tu as fait. Tu pleures sur les bêtises, tu pleures sur ta dépendance. Et plus t'as faim, plus tu dois pleurer. Parce que tu te dis, comment t'es pas capable de te tenir? Je peux pas, j'ai faim. Mais t'es un chien, mais bouge-toi, mais ça y est, ça suffit. Prends une décision dans ta vie. Sors de tes limites, sors de la matière. Tu dis, je peux pas, j'arrive pas, c'est trop dur, je vais me trouver mal, Tu veux le SAMU? Non, ça va, un verre d'eau, ça ira. Non! Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te sépares de la matière, tu te rapproches de l'antimatière, tu te sépares de Yetzer Hara, tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu. Ça c'est quoi ça? Ça c'est Mikvé Israël. Akadosh Baruch Hu, il est Mikvé Israël. C'est quoi c'est un Mikvé? Hachem il est là, il t'attend. Il est là Hachem, il s'en va pas. Il t'écoute, il t'attend. Hachem il veut la vie, il veut que le rachat il fasse teshuva, il veut. Il t'attend. Maintenant toi, il faut que tu rentres dans le Mikvé. Non, il faut savoir quoi. Quand tu rentres dans le mikvé, la touma elle reste dehors, la kedusha elle est à l'intérieur. Tu rentres dans le mikvé. Le mikvé c'est le symbole comme l'enfant qui est dans le ventre de sa mère. Un enfant quand il est dans le ventre de sa mère, il est pur. Quand tu rentres dans le mikvé, t'es pur. D'accord? Donc maintenant, toi, tout le travail préliminaire, c'est toi qui le fais. Premier scénario, c'est quoi? C'est quelque chose où c'est un mikvé. Il est statique, il bouge pas. Mais c'est une source de pureté pour toi. Si toi, tu te sépares de la matière, tu te sépares de la mort, parce que la mort, elle va avec la matière. Donc, tu te rapproches de la vie. Akadosh Baruch Hu, c'est la source de la vie. Donc, quand tu fais tes chouva sur tes fautes, automatiquement, tu te rapproches de la source de la vie. Ça, c'est Mikvé Israël Hachem. D'accord? Mais c'est, entre guillemets, c'est presque automatique. Ça veut dire que c'est comme si toi, t'as de la cire sur toi, et tu te rapproches du soleil, eh ben, la cire, elle fond.
Maintenant, si toi, tu as une envie profonde de devenir spirituel, automatiquement, ton matériel, il fond. C'est normal. Parce que, même dans la vie, quand on choisit l'essentiel, automatiquement, on dénigre le superficiel. Maintenant, tu avais une vie superficielle, maintenant tu veux une vie essentielle. Alors, tu cherches l'essentiel. Akjboukhou, c'est l'essentiel. Toi, tu veux te rapprocher de l'essentiel. Alors, automatiquement, tu t'écartes du superficiel. Le Yetzara, il fond. L'impureté, elle reste. Dans le Mikvé, toi, tu sors pur. Ça, c'est le premier scénario. D'accord? C'est quoi? Toi, tu commences, Akjboukhou, il finalise. Deuxième scénario. T'arrives pas à te bouger. Elou, les slichot, la tchouva, le cours du mardi, les claques, les caparots, tout. Allah. Tu bouges pas, tu dis non, j'arrive pas, c'est trop. Et quoi, je vais mettre la kippa, je vais manger kasher, et pourquoi pas, je vais faire shabbat, t'arrives pas. T'as une lourdeur comme ça. T'es coulé dans le béton, prise rapide, comme ça. Alors, Hachem dit, rentre dans le mikvé. Mes chiffres, si je vais venir à la synagogue. Je suis trop dans le matériel. Je suis trop dans le laxisme. Je suis trop dans l'immobilisme. J'arrive pas, moi. J'ai plus la vivacité d'esprit, la vivacité de mouvement, la vivacité de réflexion. Je peux plus, moi. Je suis une lourdeur. Moi, je suis une pesanteur. Moi, Yetzara, il m'a dans la main. Il fait ce qu'il veut avec moi. Il me dit à gauche, à droite. Ah. Donc, j'existe plus, moi. Donc, je peux pas rentrer dans le mikvé. Donc, je peux pas me rapprocher d'Hachem. Alors, c'est marqué. Vezarakti alechem ma'im teorim. Hachem dit, bon, moi je vais vous jeter l'eau, moi je vais vous purifier, moi. D'accord? À une condition. Oui, ce qui est marqué. Yom Kippour, il fait la capara, même qu'il a fait tchouva, même qu'il n'a pas fait tchouva. Rous mi porek ol, sauf celui qui rejette le joug divin. C'est au moins un minimum de tmimou, tu fais pas genre comme ça, tu fais le malin du Dieu, est-ce que Dieu existe? Tu veux une terecha? Dis qu'il existe. Ne fais pas l'intello comme ça. Dis qu'il existe. Dis que t'as un gros Yetzirara, super gros, mais pas boss de Yetzirara. Mais dis qu'il existe. Ne fais pas le malin, parce qu'Hachem, pour te prouver qu'il existe, il a des techniques à lui. Très précises. En pleine tronche, il va te mettre la technique. Donc fais pas le malin, fais pas le haram, genre, tu veux te battre avec lui. D'accord, tu dis, Dieu existe. Pas de question, Dieu existe. C'est bon, on va pas se battre avec un raz de marée. Logique, non? La lune, elle s'approche de la Terre. C'est pas une éclipse, c'est toi qui vas être éclipsé. D'accord? Tu ne discutes plus. D'accord. Mais je reconnais, j'ai un Yetzara. Je suis matière, je suis lourd, je suis laxiste. J'arrive pas. Bon, Hachem dit, t'arrives pas. Bon, allez. C'est ton père. Tu viens avec des tâches, il va pas te jeter à la poubelle, non? Vezarakti alehem ma'im teorim. Je vais verser sur vous des eaux pures. D'accord? Vous allez dire, c'est pratique, son truc. Il y avait la soupe populaire, maintenant il y a la douche populaire. T'es tranquille, tu restes un clochard, de temps en temps on te ramasse dans un car, on t'emmène à la synagogue, on te lave. C'est gratos, c'est bien. C'est vrai? Mais ça dépend, mon frère. Toi, tu voulais être inscrit dans le livre de la vie, ou non? Parce que nous, qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah? On dit, Zochenu l'Echaim. Rappelle-toi de nous, pour la vie, ou mentionne-nous parmi les vivants. On peut traduire de différentes manières. Melech Chafetz Machaim, toi le roi qui désire la vie. Kotvenu besefer Chaim, écris-nous dans le livre des vivants. Les mancha Elokim Chaim, pour toi, Dieu vivant. D'accord? Abotai, il faut bien se mettre dans la tête une fois pour toutes. Ici, on est sur terre. D'accord? Hachem, il est dans l'antimatière. Maintenant, Akjboukhou, il veut la vie. Il veut ta vie à toi. Il veut que tu t'en sortes. D'accord? Il sait que c'est dur, il sait que la Yetzirara, il sait que c'est très dur, mais il veut que tu t'en sortes. Maintenant, il te tend la main. Il dit, viens ici, viens, approche-toi. Alors, il te le dit. Maintenant, toi-même, tu dis, moi aussi, je vais faire partie des vivants. Parce que t'as compris maintenant que le rachat, il est mort. Parce que le rachat, il n'a pas de décision. Le rachat, il est englué dans la matière. Le rachat, il oriente pas sa vie. Le rachat, on fait ce qu'on veut avec lui. Le rachat, il est écrasé par les mauvaises pensées. Il est écrasé par ses mauvaises habitudes. Il n'arrive pas à se remettre en cause. Il est pourri par son entourage. Tu sais que le rachat, il est mort. Tu le sais. Puisqu'il est mort, il est un pion. On l'a expliqué dans le din dans Rosh Hashanah. Ou t'es un pion, ou t'es un joueur. Hachem, il dit, tu veux être un joueur. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Zochenu l'Echaim. Hachem, tu lui dis, inscris-nous dans le livre de la vie. Attention, le livre de la vie ou le livre des vivants? Le livre de vivant, c'est ce qui se prend en main. Il casse, il déchire la croûte du Yetzer Hara, il se prend en main. Le livre des morts, c'est quoi? C'est les gens qui se laissent maîtriser par le Yetzer Hara. Rechaim, Nikraim, Metim. Les fauteurs sont appelés morts. Et c'est normal, puisqu'ils sont matière. Matière, pion, pion, il faut quelqu'un qui les déplace. Vivant, vivant, mature, affirmation, ils se déplacent tout seuls. Maintenant, toi, tu dis, mets-nous dans le livre des vivants. Hachem, il dit, je veux bien. En plus, il désire la vie. Mais il veut la vie, c'est normal. Il a créé un homme pour qu'il devienne mature, pas pour qu'il soit un chien de son Yetzer Hara. Attention. Les manra Elokim Chaim. Pour toi, Dieu vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour toi, Dieu vivant. Il dit le Sfat Emet, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas un Dieu vivant. Dieu, c'est la vie. C'est lui l'essence de la vie. Maintenant, moi, je veux me rapprocher de la vie. Je cherche la vie. Donc, où je vais développer en moi ma neshama, c'est-à-dire que ma neshama, je vais lui donner une extension. Je vais lui donner une extension à ma neshama à travers mon nefesh. C'est-à-dire que ma volonté, ma personnalité, elle va devenir comme ma neshama. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai élargi ma neshama. Ou au contraire, chas v'shalom, je vais élargir mon corps. Je vais faire que ma personnalité, elle va être annulée devant mon corps et je vais devenir un corps en plus avec un cerveau. Alors que moi, ce que je voudrais, c'est une neshama avec un outil qui s'appelle le cerveau. Donc nous, quand on veut être inscrit dans le livre de la vie, d'accord, c'est-à-dire que nous, on veut changer. Nous, on veut être autrement. Et même si on va dire, bon, mais quand même, on n'est pas... D'accord. Mais tout le travail, si on t'a donné Yom Kippour tous les ans, ça veut dire que tous les ans, tu peux à nouveau sortir comme un papillon. Vous savez, un papillon, il fait la mue, là. Il sort de... Je sais pas comment ça s'appelle. Pardon ? Pas de gros mots, s'il vous plaît. Il sort de la chrysalide. Lide ou line ? Lide. C'est grave, il faut que j'achète un dictionnaire. Donc il sort de sa chrysalide, ouais. Imagine, tous les ans, tu sors. Tous les ans, il y a un nouveau papillon qui sort. Pourquoi? Parce que tous les ans, le Yetzara, il t'a attaqué, il t'a fait une croûte autour de toi. Tous les ans, tu éclates la croûte. T'as essayé de faire qu'elle soit la plus fine possible, mais elle peut pas être à zéro, sinon t'es un sadique. On te connaîtrait, on te demandait des bénédictions. Donc, puisque on te connaît pas avec Dieu non plus, donc, c'est qu'il y a encore un peu de Yetzara. D'accord? Donc, tu vas déchirer à Kippour la croûte de Yetzara. C'est plus facile, ouais. Et tu vas te libérer. Et ça, c'est l'accapara. C'est ça, l'accapara. L'accapara, c'est ça. Ah, ça coûte, l'accapara. Oui, ça coûte. Ah, ça remet en cause. Oui. Ah, il faut changer. Ah oui, il faut changer. Tu dis, mais c'est marqué dans la Gemara que même s'il fait pas de tchouva. Oui, t'as raison. Tu peux passer Kippour et on te pardonne des fautes et t'es inscrit dans le livre des morts. C'est ça que tu veux? Toi, tu vas être inscrit dans le livre des vivants. Le livre des vivants, c'est des gens matures qui s'assument et qui prennent leur vie en main, et qui regardent Hachem en adulte. Alors Hachem, il dit, tu veux être inscrit dans le livre des vivants? Faut enlever la croûte, laisse les crasses dehors, tu laisses les crasses, rentre, viens chez moi. C'est pour ça qu'on sonne le chauffard à la fin de Kippour. Pourquoi on sonne le chauffard? Parce que au Yovel, au Jubilé, ouais, au bout de 49 ans, on est obligé de libérer tous les esclaves. Alors là, on sonne le chauffard, et tous les esclaves sont libérés. Normalement, le soir de Kippour, on doit se sentir libéré de l'esclavage du Yetzer Hara. C'est pour ça qu'on sonne, Rabotai. Donc, à la sortie de Kippour, t'es libéré du Yetzer Hara. Tu sais comment t'es libéré du Yetzer Hara? Parce que les gens, toujours, ils se demandent, ils disent, une fois quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit, mais, le soir de Kippour, on fait tchouva. Donc, on est pardonné. D'accord? Mais si quelqu'un, une heure après la sortie de Kippour, il fait une belle avéra. Est-ce que ça prouve qu'il a pas fait tchouva et ça lui compte dans l'année dernière? Ou non, il a fait tchouva, mais maintenant, il fait une nouvelle avéra. Et c'est quelqu'un d'autre. Je lui dis, qu'est-ce que t'en penses, toi? Il y a un type, tu l'attrapes en train de voler dans la caisse. Tu le fous dehors. Après, sa mère, elle vient, elle pleure et tout ça. Tu dis, bon. Tu dis, je vous donne une période d'essai. Tu lui donnes une période d'essai. Une heure après, tu le trouves les mains dans la caisse. Qu'est-ce que tu dis? C'est le même voleur qu'il y a un quart d'heure ou c'est un nouveau voleur qui s'est repenti? Rabotai, un homme normalement quand il sort Kippour,
il sort de Kippour, un homme, il n'a pas faim. Il n'a pas faim. Pourquoi ? Parce qu'il est bien. Il s'est retrouvé. Il s'est libéré. Il a fait des bonnes prières. Il n'a pas de prise de tête. Il n'a pas de soucis. Il est proche de l'essentiel. Il est proche d'Hachem. Pourquoi tu veux qu'il court à nouveau dans l'esclavage ? Pourquoi tu veux ? Comme quelqu'un, il s'est tanné à faire un régime, d'accord ? Il a perdu 40 kilos. Et il y a un type qui lui propose un sucre d'orge. Il dit, c'est un petit sucre. Lui il voit tout ce qui s'est tanné à maigrir. Tu vois, tu lui parles encore du sucre d'orge. Mais il veut pas. Il est bien. Laisse-moi tranquille. Ne me commence pas avec ça. Laisse-moi tranquille. Je suis bien. Je suis à la fin de Kippour. Je suis bien. Je suis bien avec Hachem. J'ai compris ce qui est essentiel. Je suis bien avec ma famille. Je suis bien avec mes amis. Je suis bien. Qu'est-ce que je vais me prendre la tête maintenant? Comprenez ou non? C'est cet état-là c'est cet état de où t'as dépassé la matière. Oui? C'est vrai, tu dis, t'as pas faim. J'ai pas faim. Comment tu vas voir? Il y a Arvit après Kippour. Ça, c'est un test extraordinaire. Tu le vois, le type. Il y a une demi-heure, à la Neila, il était là. Hachem, Wa Elohim. Qui ça? Hachem! Il frappe son fils parce qu'il répond pas Hachem, Wa Elohim. Il finit la Neila, il sonne le chauffard. À Beten ou Elohim. Le ventre, c'est Dieu. La voiture, les infos. Vite, on va être pile. Ça sort à 8h, 8h30, on peut avoir le film. Vite! Tu dis, mais qu'est-ce que t'as fait tout Kippour? Ah, putain, il est mort. Vous comprenez ça ou non? Je me dis, viens, rentre dans le mikvé. Sors-moi de cette crasse. Ça y est, maintenant, t'as une autre vision des choses. T'es une autre personne, t'as une autre vision des choses. T'as exactement la même vision. Avec 500 grammes en moins. Allez, 200 grammes. Combien t'as maigri? Comprenez ou non? Allez, t'as sué, allez, t'es resté debout. Allez, 350 grammes. T'as donné 350 grammes. Oui, et t'as ingurgité 147 kilos. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Non, le contraire. Tu sors. Tu finis Kippour, tu prends ton livre, tu t'assois, tu vas nous faire un arvit de folie. Tu te presses pas, tu pries bien, la kavana, tu dis mais c'est fini Kippour, hein? Eh ben oui, mais moi ça commence l'année pour moi. Je vais faire un bon créat de schéma, je vais faire une belle amida, je vais rester jusqu'au dernier kadish, je vais encore dire baruch hu baruch shemo, encore. Parce que toute la journée, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit Yeshemé Rabba toute la journée. T'as dit le nom de Dieu est grand. C'est ça, tout Kippour, c'est ça. Dieu est grand, c'est ça tout Kippour. D'accord? Alors tu vas pas rater une occasion de le répéter, non? Yeshemé Rabba, tu te presses pas. Tu vas rater les infos. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Attends, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rater un film, il va repasser l'année prochaine. T'en fais pas. La Hazara, il y a ça. T'as rien raté, crois-moi. Tu dis, mais tu sais, c'est un événement. T'as rien raté. Alors tu fais un bon truc. Tu fais un bon arvit, tu rentres chez toi tranquillement, tu commences par l'essentiel, tu vas voir ta femme, essentiel, tu vas voir tes enfants, deuxième essentiel. Après, si tu veux, si tu t'approches de la table, si tu commences par la table, essentiel, tu mets une baffe à ton fils, essentiel. Tu dis à ta femme que c'est pas bon, essentiel. Vas-y doucement, t'as le temps de réfléchir comme ça, à ce que ça va te coûter, d'accord? C'est pareil. Il dit, à partir du moment où quelqu'un comprend ça, il comprend pourquoi est-ce que Yom Kippour, c'est vraiment un tremplin extraordinaire pour celui qui a vu la taille du challenge et qui est prêt à vivre à 100%. D'accord? Voilà.